Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une ce matin, la Belgique devient-elle un narco-État ? Europe 1 a mené l'enquête après la tentative d'enlèvement du ministre belge de la Justice. Nous sommes allés au port d'Anvers, plaque tournante de la cocaïne en Europe. Rencontre exclusive dans un instant avec un ancien baron de la drogue. C'est aller trop loin, les premiers mots de Julien Bayou après 2 semaines de silence. L'ancien chef de file des députés écologistes est accusé de violence psychologique sur son ex-compagne, on l'entendra. Et puis les 60 ans du début de la Beatlemania. Aujourd'hui, on en parlait il y a un instant, Love Me Do fête sa 60e bougie, une véritable révolution à l'époque dans le milieu de la musique. On vous explique tout dans ce journal. Journal présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Je vous propose de commencer ce journal en prenant la direction de la Belgique, pays gangréné par le trafic de drogue. Le ministre de la Justice a même été la cible d'une tentative d'enlèvement il y a quelques jours. Alors peut-on dire, comme le procureur de Bruxelles, que la Belgique devient un narco-État ? Pour y répondre, notre correspondante Europe 1 est allée à la source, dans le principal point d'entrée de la cocaïne en Europe, le port d'Anvers, avec ses 12 millions de conteneurs déchargés chaque année. Elle y a rencontré un baron de la drogue qui a exercé pendant des années pour un butin estimé à 700 millions d'euros. Reportage Laura Van Lerberg.
Le rendez-vous est donné vers 9h sur le port d'Anvers. Il le connaît sur le bout des doigts. 30 ans en tant que trafiquant de drogue, en prison pendant 12 ans, sorti il y a tout juste 3 ans. La cigarette à la bouche, les verres de lunettes légèrement bleutés. Dès les premières secondes, Paul Meyer se montre loquace.
J'ai commencé très jeune et c'est devenu de plus en plus grand. La police m'a attrapé avec 80 tonnes, mais toutes les 5 semaines, nous faisions 20 tonnes.
Pour autant, il n'a rien oublié. À bord de sa voiture, direction le quai de déchargement. Le port s'étend sur plus de 129 km², une surface plus grande que la ville de Paris. À chaque terminal, des panneaux défense d'entrée, aucune caméra, seules quelques dizaines d'employés qui ne remarquent pas notre présence.
Comment c'est possible que nous puissions conduire ici ? C'est interdit et pourtant j'accède au bateau.
Des conteneurs à perte de vue et des marchandises de tout type rangées dans des hangars.
Si je veux faire quelque chose, je sais quelle compagnie c'est et je peux voir où je peux acheter ces produits, mettre quelque chose dans ces produits et laisser le bateau me l'amener.
Après 15 minutes, toujours aucune remarque des agents, Paul Meyer discute avec l'un d'eux.
Le port est-il étanche ?
Et pour les trafiquants, s'attirer leur service est presque devenu monnaie courante.
Sont-ils corrompus ? Je dis toujours qu'ils sont humains. Les bénéfices sont énormes dans la cocaïne.
À Anvers, le trafic de cocaïne est estimé à 50 milliards d'euros par an. Florence Angelici, porte-parole du service public fédéral des finances et de la douane.
C'est un port très vaste, très étendu et difficile à surveiller. Il y a une grande demande en Europe. La cocaïne qui est vendue en Europe est vendue plus cher que dans d'autres pays.
Mais seuls 2% des conteneurs sont vérifiés par an. Pour renforcer les contrôles, le gouvernement prévoit un investissement de 70 millions d'euros.
Laura Van Lerberg.
Europe 1, 5h03. L'Assemblée a voté hier soir un texte qui déclare la guerre aux chômeurs. C'est ce qu'assure en tout cas la chef de file insoumise Mathilde Panot.
Ce texte, c'est l'une des mesures clés du projet de loi de réforme de l'assurance chômage. Il ouvre la voie à une possible modulation de la durée d'indemnisation en fonction de la situation du marché du travail, notamment dans l'hôtellerie, la restauration et le BTP, des secteurs, on le sait, qui sont en tension. Adoption houleuse, rejetée par la gauche et le Rassemblement national.
Lui était chef de député écologique avant de renoncer à ses fonctions. Julien Bayou.
Accusé il y a 2 semaines par Sandrine Rousseau de violence psychologique sur une ex-compagne, Julien Bayou est sorti du silence hier soir pour se défendre contre ce qu'il considère comme une injustice. C'était sur le plateau de C'est à vous sur France 5.
Cette séquence, je pense, est grave en fait. Au-delà de mon cas personnel, je crois que c'est vraiment irresponsable de dévoiler l'état psychologique de quelqu'un à une heure de grande écoute, de lancer des accusations sans étayer. Enfin, je pense vraiment que c'est allé trop loin. Et moi, je suis dans une situation, c'est Kafka. Voilà. On m'accuse de faits qui ne sont pas répréhensibles, des accusations pour lesquelles je suis immédiatement jugé coupable. Pour autant, on ne me les présente pas. Je ne peux pas m'en défendre. J'ai été mis en cause par mon ex-compagne début juillet. J'ai demandé 4 fois
à être auditionné par cette cellule.
Je suis innocent de faits dont je ne peux me défendre, qui ne me sont pas présentés.
Direction Marseille à présent, nous sommes des morts vivants. Les mots forts des parents d'une des victimes de l'accident de Mias hier au procès.
Oui, cela fait 3 semaines qu'il a commencé et ça y est, il entame maintenant sa dernière phase. L'ensemble des parties civiles a pu prendre la parole. Les réquisitions sont attendues demain. Nadine Oliveira, la conductrice du car, seule prévenue à ce procès, risque 5 ans de prison. Les proches du petit Jonas, 11 ans, tué dans la collision entre le bus et le TER, espèrent que sa responsabilité sera reconnue. Écoutez leur avocat, Maître Audier Soria.
Les débats depuis ces 3 semaines ont permis de faire émerger des charges solides à l'encontre de Nadine Oliveira. Et le rôle du procureur de la République, c'est ça, c'est de les mettre en lumière et d'expliquer avec pédagogie pourquoi Nadine Oliveira est responsable de l'infraction qui lui est reprochée. On attend effectivement une condamnation qui viendra définitivement clore les débats et en certaine manière ramener la vérité judiciaire. Du côté des familles que je représente, on n'est pas nécessairement dans la vengeance. Il ne viendra pas cette condamnation les apaiser définitivement. Ils sont rentrés ici avec la conscience de ce que le résultat ne viendra pas changer le cours de leur vie, même si d'une certaine manière, la condamnation de Nadine Oliveira viendra s'inscrire en parfaite cohérence avec tout ce qu'ils ont entendu depuis le début de ce procès.
Maître Audier Soria au micro européen de Nina Pavan.
En Ukraine, les troupes de Volodymyr Zelensky continuent de reprendre du terrain à l'armée russe.
Oui, hein, selon le président, le drapeau bleu et jaune flotte à nouveau dans de nombreuses villes, une dizaine, notamment dans les régions de Kharkiv et Kherson. Volodymyr Zelensky remercie aussi son homologue américain Joe Biden pour son soutien militaire continu, déterminant dans la contre-offensive. A noter aussi qu'à la demande de l'Ukraine et de l'Albanie, l'Assemblée générale des Nations Unies se réunira lundi à 21h.
C'est un anniversaire marquant ce matin, Alban, puisqu'il y a 60 ans exactement, naissait Love Me Do, c'est le tout premier single des Beatles.
Et pas des moindres, hein, car même s'il n'a pas directement cartonné Love Me Do, c'est avant tout une révolution dans le monde musical. Marie Jiquel nous explique tout.
Une collaboration harmonieuse qui commence par l'harmonica de John. À la voix, il y a Paul, Ringo pour la première fois à la batterie, le discret George à la guitare, des paroles faciles à retenir et le mythe Beatles naît.
Paul McCartney disait qu'au fond, c'était leur chanson la plus philosophique de toutes celles qu'il avait composées.
Jacques Volcouve, l'historien des Beatles.
Groupe inconnu et ils ont le toupet de venir avec une composition qui leur était propre, qui était signée déjà Lennon McCartney. Et c'est ça qui est déjà une originalité. Puisqu'à l'époque, les artistes arrivaient dans une maison de disques et leur producteur disait « Ah ouais, vous avez telle tessiture de voix, vous avez tel style. » Et ils contactaient un mec pour leur composer les chansons. On ne peut pas faire Strawberry Fields Forever en 1962. Ça aurait été à contre-temps. Mais en revanche, dire « Je veux tenir ta main, elle t'aime et aime-moi », c'est des trucs d'adolescents, c'est parfait.
Love Me Do gagne la 17e place au Hit Parade, un exploit pour un premier titre. Leur deuxième 45 tours, Please Please Me, se hissera lui à la première place. Une habitude pour les 4 garçons dans le vent.
Marie Jiquel. Ah, et tiens, sacrée journée, hein, il y a 60 ans au Royaume-Uni, parce qu'on le disait un instant, le premier single des Beatles sortait ce jour-là, mais ce n'est pas le seul événement qui a eu lieu le 5 octobre 1962 de l'autre côté de la Manche. Vous l'aurez tous reconnu, le mythique 007. Et bien aujourd'hui, cela fait 60 ans également que le premier film de la saga James Bond 007 contre Dr No a été projeté à Londres. Petit chiffre qui illustre la notoriété de l'agent sur les 25 épisodes. Plus de 4 milliards de places de cinéma ont été vendues.
4 milliards.
4 milliards.
La moitié de l'humanité.
Exactement.
Merci Alban Leprince, c'était le journal de 5h sur Europe 1.
À 5h09, on passe au sport, le journal des sports de Johan Tritz. Bonjour Johan.
Bonjour Blin, bonjour à tous.
Et ça y est, enfin, Marseille a gagné en Ligue des Champions.
Et pourtant, tout avait mal commencé face au Sporting Portugal avec un but encaissé dès les premières secondes de jeu. Mais les joueurs marseillais, sans leur public au Vélodrome, ont renversé la situation pour remporter le match. 4-1 après 2 défaites, l'OM de Matteo Guendouzi se relance avec ce succès.
On savait qu'ils étaient très dangereux, surtout les 3 joueurs offensifs.
Ouais.
On sait qu'ils aiment beaucoup combiner entre eux. Et ben, ils nous ont eu dès le début du match sur la première situation. Mais voilà, je trouve qu'après les 10-15 premières minutes, on a fait un excellent match en somme. On a mis l'intensité qu'il fallait. On a eu un très bon pressing, ce qui nous a permis de récupérer pas mal de ballons et de se procurer beaucoup d'occasions. Donc voilà, on a fait vraiment un match complet. C'était important de gagner parce qu'on sait qu'avec les deux défaites, on était mal, on était mal embarqué. Maintenant, tout est encore possible. On va bien récupérer parce qu'on a un match aussi contre Ajax ce samedi. Mais voilà, c'est une très belle performance de l'équipe.
Matteo Guendouzi au micro de Canal+. C'est une bonne nouvelle. On amène une autre. Dans l'autre rencontre de ce groupe D, Tottenham et Francfort ont fait match nul 0-0. L'OM est à un point de la deuxième place qualificative pour les huitièmes de finale avant la phase retour.
Que s'est-il passé dans les autres rencontres, Johan ?
Alors, dans les performances notables, il faut souligner la très belle campagne de Bruges, vainqueur 2-0 de l'Atlético de Griezmann, qui a manqué un pénalty. Les Belges enchaînent une troisième victoire et sont plus qu'en lice pour une qualification historique en huitième de finale. Carton de Naples à l'Ajax Amsterdam 6-1, du Bayern 5-0 face aux Tchèques de Pilsen. Dans le choc de cette troisième journée de Ligue des Champions, l'Inter a battu Barcelone 1-0.
Et ce n'est pas terminé, la Ligue des Champions continue ce soir.
Avec le PSG qui se déplace sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Les Parisiens qui restent sur 4 échecs là-bas au Portugal. L'entraîneur Christophe Galtier sait donc que ce sera difficile.
On vient chez un adversaire qui est invaincu, qui est en pleine confiance. Il va y avoir une ambiance extraordinaire. Ce stade pousse très très fort. Est-ce qu'on sera capable de jouer et de bien jouer avec la pression, évidemment la pression du public, mais les pressions exercées par nos adversaires, est-ce qu'on sera capable de le faire? Je pense qu'on en a les qualités, vraiment les qualités. Et avec beaucoup de concentration et de détermination, je pense qu'on peut être aussi très dangereux.
Christophe Galtier au micro de Cédric Chasseur, les Parisiens qui ont remporté leurs deux premiers matchs en Ligue des Champions.
Et on termine ce journal des sports, Johan, avec du cyclisme sur piste.
Oui, la France qui vient d'annoncer sa sélection pour les mondiaux qui commencent la semaine prochaine. Ce sera à domicile au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines où se dérouleront les épreuves olympiques de 2024. Le directeur technique de la fédération, Christophe Manin, vise une compétition à guichet fermé, soit 25 000 spectateurs sur l'ensemble de ces mondiaux.
Sur le mercredi, jeudi, vendredi, il reste encore de la place. Sur le week-end, il en reste aussi quelques-unes, mais ça devient très tendu. Donc l'objectif de remplir le Vélodrome, il est quasiment acquis. Et puis dans les jours qui viennent, je pense qu'il sera complètement acquis.
Propos recueillis par Axel. Mais dépêchez-vous donc, Omblin, Alexandre, si vous voulez des places, parce qu'il n'y en a plus beaucoup.
Il n'y en a plus beaucoup, on retient votre conseil. Merci beaucoup Johan Tritt, c'était le journal des sports sur Europe 1. Et à 5h12, on passe aux courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Laval. Et mon pari gagnant sera le 407 Fiesta Dancer. Voilà une jument sur laquelle on peut compter. Sérieuse, maniable et besogneuse, elle ne cesse d'aligner les bonnes performances au trot monté. Et elle se retrouve une nouvelle fois idéalement engagée cet après-midi à la limite de la qualification sur une piste plate en parfaite adéquation avec ses réelles aptitudes. Alors notez bien, pour Laval, réunion 1 dans la quatrième course, le numéro 7, Fiesta Dancer.
Merci Thierry Léger, on découvrira vos pronostics du Quintet dans une demi-heure sur Europe 1. 5h13 à suivre, l'histoire dingue d'Anissa Haddadi. Elle va ravir ce matin tous les fans des Beatles qui sont gâtés, hein, décidément, avec la réapparition d'une vidéo interdite pendant plus de 50 ans. A tout de suite. Ding, ding, ding,
ding. Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Bon réveil et merci de choisir Europe 1 dès votre réveil. C'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Haddadi.
Je crois que c'est la marque des légendes, hein, Anissa. Avec les Beatles, on peut le dire, c'est jamais terminé.
C'est exactement ça. Bon, je vais me tenter à parler musique devant Omblin ce matin. Je prends des risques. Mais attention, j'ai une très bonne nouvelle pour tous les fans des Beatles. Et forcément, quand on parle d'un groupe mythique, l'histoire est forcément unique. La justice japonaise a décidé, il y a quelques heures, de diffuser une vidéo totalement inédite des Beatles.
Ça a l'air absolument passionnant. Elle date de quand? On y voit quoi sur cette vidéo?
Alors, déjà cette vidéo, elle date, vous allez vous précipiter dessus, Omblin, je vous connais, elle date de 1966. C'est la date du voyage des Beatles au Japon. En fait, c'est un film muet. Alors, pour les Beatles, vous allez me dire quel intérêt. Eh bien, c'est un film muet en noir et blanc de 35 minutes qui est disponible aujourd'hui en accès libre sur YouTube et qui avait été réalisé à l'époque par la police japonaise à des fins de sécurité. C'est-à-dire qu'on y voit les quatre garçons dans le vent à leur descente d'avion en kimono, et puis ensuite ils vont à leur hôtel, ils vont sur scène et on voit tout le concert avec une grande partie du public. On les voit déambuler dans les rues japonaises et puis on les voit, donc on voit ce fameux concert dans la salle du Nippon Budokan à Tokyo.
Ça a l'air inoffensif tout ça. Pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps avant de découvrir cette vidéo, Anissa ?
Eh bien parce que depuis que la police a réalisé cette vidéo, une longue bataille judiciaire s'était engagée pour pouvoir rendre publiques ces images. Au départ, c'était vraiment des images qui étaient destinées à la police. D'ailleurs, on voit même tout au début de la vidéo, la police avec un plan au sol, en train de répartir ses équipes pour dire, bon, ils vont passer par là, on va les suivre, etc. Et tout. En fait, ces archives de la police, elles ont un détail étrange. Et d'ailleurs, sur la photo, sur la vidéo, ça fait très bizarre. À part ceux des Beatles, tous les visages de toutes les autres personnes filmées sont floutés pour des raisons de respect de la vie privée. Donc en fait, pendant des années, la question du droit à l'image des personnes filmées était au cœur de cette bataille entre les fans des Beatles, les défenseurs du droit à l'information et la police. D'ailleurs, les fans étaient allés jusque devant la Cour suprême japonaise pour tenter d'autoriser une version non censurée de cette vidéo. En fait, les fans estimaient qu'il s'agissait d'un document historique et qu'ils trouvaient absurde de vouloir flouter tous les visages. Des visages qui aujourd'hui datent de plus de 50 ans, donc pratiquement impossible à identifier et dont la plupart sont décédés. Donc cette demande avait été rejetée en 2018 et la proposition de la police de rendre publique cette version avec des visages pixelisés s'est donc finalement imposée. Ils ont accepté, la vidéo est sortie, l'avocat des plaignants qui est lui-même un fan du groupe de Liverpool s'est exprimé avant-hier. Il dit... Ce film sort de l'ombre pour la première fois. Je suis sûre que les experts et les fans des Beatles du monde entier vont s'y intéresser de près. Et même si les Beatles ne sont allés qu'une seule fois au Japon pour 5 concerts, aujourd'hui encore, là-bas, ils restent très populaires au pays du soleil levant. Bon, pour le plaisir, c'est pas dans la vidéo inédite, mais voici un extrait du live de 66 au Nippon Budokan Hall.
The song is called Yesterday. Yesterday.
Et comme partout où il passait, le public était en folie.
Ah, allez voir cette... l'écrit, là.
Ah ouais, mais allez voir cette vidéo en noir et blanc.
Elle est sur Internet, elle est sur YouTube.
Vous tapez Beatles Japon, il y aura la vidéo du concert qu'on est en train d'écouter là. Et il y aura cette fameuse vidéo sortie avant-hier en noir et blanc où on voit les coulisses, en fait, des Beatles.
Et les évanouissements en série.
Et les évanouissements en série, c'est exactement.
Merci beaucoup, Anissa Dadi. Et on se retrouve juste avant 5h30 pour la météo.
À tout à l'heure. Europe Matin.
Très bon réveil à tous. Avec Europe 1, les titres de ce mercredi 5 octobre, Alban Le Prince.
Adoption houleuse hier soir à l'Assemblée de la mesure clé du projet de réforme de l'assurance chômage. Celle ouvrant la voie à une possible modulation de la durée d'indemnisation selon la situation du marché du travail, notamment dans la restauration, l'hôtellerie ou encore le BTP. Objectif plein emploi dans 5 ans avec un taux de chômage à 5%. Sur les retraites, autre réforme en projet hautement sensible. Les concertations commencent aujourd'hui. Le ministre du Travail reçoit les partenaires sociaux. Attention à l'heure de vos douches pour éviter tout blackout. Enedis réduira à partir du 15 octobre les plages horaires creuses. Si vous avez souscrit un abonnement pleine heure creuse, vous ne pourrez par exemple plus chauffer votre eau entre midi et 14h. Et puis en Ukraine, le drapeau bleu et jaune flotte à nouveau dans de nombreux territoires, une dizaine selon Volodymyr Zelensky, qui revendique des avancées puissantes, notamment dans les régions de Kharkiv et Kherson. A noter également la tenue d'une Assemblée générale des Nations Unies lundi soir.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Il est 5h18, bon courage si vous êtes déjà sur la route. Les initiatives en France nous emmènent ce matin dans le pays de Bitch, à la frontière de la Moselle et du Bas-Rhin.
Bonjour Loïc Duchamp.
Bonjour.
Vous êtes le conservateur de la réserve naturelle des rochers et tourbières du pays de Bitch. Merci d'être avec nous sur Europe 1 pour nous parler de votre engagement dans la protection des chauves-souris. Vous avez donc lancé une opération qu'on peut appeler une opération refuge. Loïc Duchamp, est-ce que vous pouvez simplement nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste?
Oui, alors en fait, c'est une opération qu'on n'a pas inventée, hein, qui est en réalité une opération portée par la Société française d'études et de protection des mammifères, qui s'appelle l'opération refuge pour les chauves-souris, mais qu'on a repris à notre compte sur le territoire du parc pour la dynamiser. On l'a développée dans le cadre d'un projet Interreg, espèce animale en danger, en partenariat avec nos voisins allemands du Palatinat.
Vous créez donc un réseau de refuges pour les chauves-souris. Quels sont ces lieux? Quels sont ces refuges?
Alors chez nous, là, c'est essentiellement en fait des bâtiments de type église ou parfois d'anciens presbytères qui offrent de magnifiques espaces inutilisés, hein, des combles, des greniers, des clochers. Et en fait, on s'est rendu compte depuis longtemps que c'était des espaces très attractifs pour les chauves-souris. Malheureusement, au cours du temps, des aménagements ont parfois bloqué les accès. Et donc, voilà, on a décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire la tournée des communes et des sites qui nous paraissaient les plus pertinents pour les réouvrir lorsqu'ils étaient fermés et les aménager de manière favorable pour l'accueil des chauves-souris.
Donc cette opération ne peut fonctionner qu'avec le concours des particuliers, des presbytères, c'est ce que vous dites, avec les habitants de la région.
Exactement, parce qu'en fait les églises, elles ont des statuts en partie publics et encore en partie privés. Et donc tout ça ne peut se faire qu'avec l'accord des propriétaires. On leur présentait le projet et la grande majorité ont toujours répondu favorablement à notre sollicitation.
Les chauves-souris comptent parmi les espèces animales en danger, hein, il faut bien le préciser. Ça s'explique par ce manque de sites accessibles, justement, par ces rénovations de maisons, d'églises, de bâtiments ?
Alors en fait, oui, les chauves-souris font face à beaucoup de problèmes, donc comme une grande partie de la biodiversité. Hein. Les chauves-souris ont un cycle de vie qui est assez complexe et certaines espèces sous nos latitudes, je parle des latitudes notamment des Vosges du Nord, hein, là où on est, donc le nord-est de la France, se sont adaptées en fait au bâti humain depuis très longtemps. Donc certaines espèces chez nous sont très dépendantes pour la reproduction de ces gîtes. Donc en fait, leur maintien dans notre région dépend complètement de l'accueil qu'on lui consacre. Mais bon, il y a d'autres problématiques. Hein. Il y a des problèmes aussi de pollution de l'environnement, de la diminution des insectes qui sont leur proie essentielle.
Oui.
Des problèmes aussi d'éclairage nocturne. Enfin voilà, il y a beaucoup de problèmes. Aussi des problématiques sur l'hivernage. C'est des animaux qui vont chercher des lieux, souvent des souterrains, des grottes, des lieux tranquilles où elles vont pouvoir hiberner. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc là, nous, on s'est surtout attelé à l'aspect accueil des colonies de reproduction. Hein, donc ce sont des groupes de femelles, hein, ça peut quand même atteindre, selon les espèces, plusieurs centaines d'individus qui ont besoin de lieux tranquilles et avec des conditions particulières et des accès surtout qui leur permettent à elles de rentrer, mais pas à leurs prédateurs non plus.
Bien sûr. On parlait de ces chauves-souris et du concours des particuliers. Quel accueil recevez-vous des habitants de la région, Loïc Duchamp, dans cette opération refuge des chauves-souris? Un bon accueil, j'imagine. La chauve-souris a bonne presse aujourd'hui?
Alors franchement, en une vingtaine, une trentaine d'années, je trouve que l'accueil réservé aux chauves-souris a quand même beaucoup évolué. Alors je parle au moins au niveau mentalité, parce que dans les faits, c'est là qu'il y a un problème, c'est qu'au niveau des habitations privées, on a tendance, et c'est normal, à bien aménager souvent les combles, etc., et à bien les isoler. Mais ça a privé pas mal d'espèces de gîtes. Donc en fait, on s'est rendu compte que certains bâtiments publics ou cultuels qui ne seraient pas utilisés pour le logement, ne seraient pas utilisés non plus, il n'y a pas besoin d'aménager ou d'isoler la toiture d'une église, hein, ça peut être fait au niveau du sol. Bref, on pouvait réserver des grands volumes pour des espèces assez exigeantes. Je prends juste l'exemple du grand murin, hein, c'est une des espèces cibles pour nous. Le grand murin, c'est déjà la plus grande espèce de notre secteur. Et elles forment des colonies de plusieurs centaines jusqu'à 1000 individus.
Il faut de la place.
Tout le monde n'est pas prêt à accueillir une colonie comme ça chez lui. Donc des bâtiments comme les églises s'y prêtent très bien.
Vous proposez d'ailleurs au public, pour se familiariser encore plus avec l'animal, de partir à la découverte des chauves-souris, hein, les chauves-souris dans votre région, les chauves-souris du pays de Bitche.
Oui, on organise régulièrement des animations, au minimum une animation lors de la Nuit internationale des chauves-souris. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on fait ça. Après, il y a souvent d'autres sorties dans le parc des Vosges du Nord sur les chauves-souris, mais on organise des ciné-débats, on organise parfois des conférences, enfin tout un tas d'activités en direction du public pour sensibiliser les gens. Et ça, souvent, ça marche très très bien parce que les gens sont attirés par les chauves-souris. Voilà, c'est quand même, on le remarque parce qu'on fait ce même travail sur d'autres thématiques. Et en fait, les chauves-souris, ça marche systématiquement. À chaque fois qu'on fait une action en faveur des chauves-souris, le public est au rendez-vous.
Merci beaucoup, Loïc Duchamp, d'avoir accepté de nous parler de cette opération refuge pour la protection des chauves-souris. Je rappelle que vous êtes le conservateur de la réserve naturelle des Rochers et Tourbières du pays de Bitche. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, au revoir.
5h28, bon réveil avec Europe 1, nous sommes le mercredi 5 octobre, au programme de la prochaine demi-heure.
Des coquilles Saint-Jacques, en veux-tu, en voilà. Profitons de cette bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'elles sont pas si fréquentes en ce moment. Les Saint-Jacques, prolifèrent hein, cette année au large de nos côtes. Il sera facile, a priori, d'en trouver cet hiver sur les étals de votre poissonnier. Éric Fouché de l'Ifremer, viendra nous dire pourquoi à 5h40. Des envies de cuisine donc, des envies d'évasion également avec la prescription culture, Ombline.
Nicolas Caro nous propose de lire le dernier roman de Grégoire Boyer, Le cœur ne cède pas, à suivre également malheureusement. Les sorties cinéma de Laurie Choleva, elle a choisi le film événement novembre avec Jean Dujardin qui raconte l'enquête après les attentats du 13 novembre.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une ce matin, le retour en grâce du nucléaire. La filière séduit à nouveau les futurs ingénieurs. Conséquence de l'annonce de la construction de nouvelles centrales par le gouvernement. Les grandes écoles font le plein de candidats. Reportage au début de ce journal. Comment renforcer la surveillance des câbles sous-marins? La France lance une grande mission d'inspection de ses infrastructures. Le problème, c'est que ces câbles sont parfois enfouis à plus de 2000 mètres de profondeur. Il n'a pas les moyens techniques de descendre justement aussi profondément. Dans ce journal, un anniversaire en catimini, le Rassemblement National, ex-Front National, fête ses 50 ans d'existence aujourd'hui au sein de la formation frontiste. Les jeunes cadres prennent leur distance avec un passé jugé encombrant. Et puis le football, Marseille entretient l'espoir en Ligue des Champions, victoire 4-1 des Marseillais hier soir contre le Sporting Portugal. Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est un retour en grâce longtemps ignoré, voire délaissé. La filière nucléaire attire de nouveau les étudiants. Conséquence de la crise énergétique que nous traversons, conséquence aussi du changement de cap du gouvernement avec l'annonce de la construction de 6 centrales de nouvelle génération. Du coup, eh bien les écoles d'ingénieurs font le plein. Reportage Margot Faudéré.
Depuis l'annonce du président de la République à Belfort en février 2022, je crois qu'il y a un effet certain de susciter des vocations pour certains jeunes élèves.
Et Noël Camarca s'en réjouit. Il est le professeur principal de la chaire Nouveau Nucléaire France à l'École des Mines de Paris. Au menu, les futures centrales EPR ou encore les petits réacteurs modulaires. En 2 ans, le nombre d'étudiants dans cette classe a été multiplié par 2. Lilia fait partie des 18 élèves qui suivent la formation, convaincus que le nucléaire permet de lutter contre le réchauffement climatique.
Ça nous permettra de décarboner notre économie, d'électrifier la société. C'était essentiel pour moi de travailler dans un domaine qui avait son rôle à jouer.
Et dans les 4 autres écoles d'ingénieurs qu'Europe 1 a contactées, les spécialités du nucléaire se remplissent aussi, comme à Polytechnique où Dominique Rossin, directeur de l'enseignement, constate l'engouement des élèves.
Ont bondi d'une dizaine d'étudiants en 2017 à plus d'une cinquantaine en 2022. Je pense que ça résonne aujourd'hui de se dire que le nucléaire est une des voies du mix énergétique qui permettra de passer le cap de la transition énergétique.
Des futurs diplômés très précieux, il faudra recruter 4000 ingénieurs par an pour accompagner le développement de nouveaux projets selon l'autorité de sûreté nucléaire.
Margot Faudéré, l'État vient par ailleurs de lancer officiellement la renationalisation d'EDF. Il va racheter les 16% du capital de l'électricien encore coté en bourse, prix de l'action fixé à 12 euros, montant total de l'opération près de 10 milliards d'euros.
Nous vous le révélions dès la semaine dernière sur Europe 1, la France a décidé de renforcer la surveillance de ses câbles sous-marins. Plus facile qu'à dire qu'à faire en réalité, ce n'est pas la volonté qui manque, mais les équipements.
Et l'expérience récente du sabotage des gazoducs de la mer Baltique pousse l'État à agir vite. On ne le sait pas assez, mais les fonds marins ressemblent à une véritable autoroute truffée de câbles. On en compte 450 reliant tous les continents. La France n'a pas les équipements nécessaire pour descendre au-delà de 2000 mètres, William Molinier. Mais là aussi, les choses pourraient changer.
Oui, 80% de ces câbles se trouvent entre 3000 et 6000 mètres de profondeur, raison pour laquelle la France veut se doter de drones et de robots sous-marins. L'armée a l'ambition d'être capable de descendre à moins 6000 d'ici à 2025, ce que font les Russes ou les Chinois aujourd'hui. En fait, le déclic a eu lieu en 2019, lorsque la France a lancé des recherches pour retrouver l'épave du sous-marin français Minerve disparu il y a 50 ans au large des côtes toulonnaises. Incapable de descendre à 2300 mètres de fond, le ministère des Armées a dû faire appel à une société privée américaine. Ça a été un électrochoc, confie une source au sein des armées. Ce robot sous-marin qui doit voir le jour sera relié par un câble à un navire à la surface. Il sera couplé à un drone capable de mesurer, sonder, filmer à des profondeurs abyssales. Le budget alloué à ce développement est de l'ordre de 300 millions d'euros. Certes modeste, reconnaît-on, mais essentiel. Car au-delà de la surveillance des fonds marins où se trouvent les câbles, c'est aussi l'enjeu du contrôle de la surface des mers, là où la France possède le 2e domaine maritime mondial avec plus de 10 millions de kilomètres carrés répartis dans tous les océans.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
La guerre en Ukraine continue de tourner au désavantage des Russes. Volodymyr Zelensky parle d'avancées puissantes sur le front.
L'armée ukrainienne continue d'exploiter sa percée. Les cartes fournies par les Russes en témoignent. Dans le sud, les forces de Vladimir Poutine ont considérablement reculé autour de Kherson. personnes alors qu'elles sont menacées d'encerclement. Les Ukrainiens avancent aussi dans le nord-est vers Kharkiv, autre ville clé. Ils vont par ailleurs bénéficier d'une nouvelle aide des Américains, plus de 600 millions de dollars en matériel lourd et en munitions.
Washington qui n'a pas attendu pour répliquer au tir de missiles nord-coréens au-dessus du Japon.
Une réaction menée de concert avec la Corée du Sud. 4 missiles sol-sol ont été tirés sur des cibles maritimes virtuelles en mer du Japon. Objectif de cet exercice, prouver au régime de Pyongyang qu'Américains et Sud-Coréens sont capables de neutraliser toute nouvelle menace.
Europe 1, 5h35, le Rassemblement National, ex-Front National, fête aujourd'hui ses 50 ans. Et si les fondamentaux n'ont pas changé, l'héritage semble parfois lourd à assumer pour les jeunes cadres et militants, Christophe.
Oui, parti fondé par Jean-Marie Le Pen, il s'est progressivement incrusté dans la vie politique à coups de déclarations provocatrices et tonitruantes. Ses dérapages verbaux conduiront à l'exclusion du père fondateur au profit de sa fille Marine. Depuis, la normalisation s'est accélérée, même si les fondamentaux demeurent effectivement, à commencer par la lutte contre l'immigration. Aujourd'hui, le RN est devenu incontournable dans le paysage. Alexandre Chauveau, ça n'empêche pas ces nouveaux membres de marquer leur distance avec les frontistes historiques.
Oui, au RN, chacun connaît l'histoire du parti et reconnaît la contribution de Jean-Marie Le Pen, mais tous ou presque cherchent à s'en émanciper. La jeune génération de députés semble plus attirée par le côté populaire et patriote du parti que par l'héritage sulfureux de son fondateur, à l'image de Kevin Mauvieux, 31 ans, député RN du Nord.
Jean-Marie Le Pen avait une façon d'agir d'une époque. C'est plus la nôtre, ça a évolué. Maintenant, c'est de nouvelles têtes qui représentent le Rassemblement National et j'en fais partie. Voilà, on s'est adapté avec la société. Effectivement, je pense que Jean-Marie Le Pen, c'est le passé. Mais il a été utile en pointant du doigt les phénomènes de société.
Alors si le Front National a longtemps été cantonné au rôle de parti contestataire, entretenu par les saillies virulentes du tribun Le Pen, le Rassemblement National se dit désormais prêt à gouverner. Une évolution synonyme de victoire pour son fondateur, Jean-Marie Le Pen, qui s'estime fier du devoir accompli.
La marche a été rude, mais les partis qui durent 50 ans, c'est déjà rare. Et ils continuent, par conséquent, on est dans l'espérance de résultats meilleurs et de l'arrivée au pouvoir.
Jean-Marie Le Pen qui devrait célébrer les 50 ans du parti dans 3 semaines à Montretout, alors que Marine Le Pen organise demain un événement à l'Assemblée sans son père.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. À l'Assemblée, justement, les 89 députés du Rassemblement National et l'ensemble de la gauche vent debout contre l'article 1 de la réforme de l'assurance chômage. Il ouvre la voie à une modulation par décret de la durée d'indemnisation en fonction de l'état du marché du travail. Article adopté par 200 voix pour contre 165.
En football, une belle soirée pour l'OM puisque Marseille relève la tête en Ligue des Champions.
Et une première victoire pour les Marseillais, 4-1 hier soir face au Sporting Portugal. L'OM entretient l'espoir d'une qualification pour les 8e de finale. Le carton de la soirée est signé par Naples, 6-1 sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. La suite de cette Ligue des Champions ce soir avec le retour du PSG. Les Parisiens affrontent Benfica dans un stade de la Luz qui ne leur a pas toujours laissé de bons souvenirs, Cédric Chasseur.
Oh oui, que ce stade de la lumière a souvent fait broyer du noir au PSG battu il y a 2 ans en finale de la Ligue des Champions ici même. C'est simple, Paris en 4 déplacements sur les terres du Benfica a toujours perdu. La faute peut-être à l'ambiance bouillante de cette enceinte couleur rouge feu qui ne sera pas tendre avec les Parisiens selon Vincent.
Ils vont expérimenter le inferno de Luz. C'est beaucoup de supporters, beaucoup de pression, c'est très 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 bon.
L'enfer de l'Estadio d'Alus, Danilo Pereira l'a expérimenté pendant 5 saisons comme joueur à Porto, l'ennemi du Benfica. Le milieu portugais du PSG sait ce qui attend son équipe.
Pendant 5 ans que j'ai joué à Porto, c'était tous les jours difficile de jouer ici parce que c'est un stade qui apporte 65 000 spectateurs. C'est ambiance chaude. C'est à nous de faire un gros match ici pour porter les 3 points à maison.
Un résultat qui ferait sûrement le bonheur des 3200 supporters parisiens qui seront ce soir à l'Estadio d'Alus, un stade où aucun club français n'a jamais gagné.
Cédric Chasseur, envoyé spécial d'Europe 1 au Portugal, Benfica PSG ce soir. Alexandre, vous notez l'heure,
c'est
21h et c'est à suivre en direct, bien sûr, dans l'émission Europe 1 Sport.
Bien évidemment. Merci Christophe Lamarre, 5h39, vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à tous. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre, direction l'hippodrome de Laval pour ce Quintet, une très belle course au trot attelé qui réunira 16 chevaux âgés de 5 à 9 ans répartis sur 2 poteaux différents de départ, 2850 et 2875 mètres, avec une nouvelle fois un favori solide, incontournable, Élite Beaufour, le numéro 14, titulaire de 3 victoires lors de ses 5 dernières sorties et qui est en passe ici d'obtenir son 30e succès en seulement 46 courses. On lui opposera Hatchetman, le numéro 1, le plus jeune et le moins riche au départ de ce quintet, mais certainement pas le moins doué, avec Hokkaido JL, le numéro 2, indissociable d'Hachettman, puisqu'ils viennent de terminer respectivement 4e et 5e du critérium des 5 ans face à l'élite de leur génération. Ensuite, je vous propose les numéros 5, Diego de Cao, un vrai métronome, 12, Décoloration, dauphine par deux fois de mon favori Élite Beaufour, et 13, Rebel Amateurs, qui, bien lunée, a elle aussi les moyens de revenir conclure dans les 5 premiers. Enfin, les numéros 11, Jérimaume, et 3, Dénicheur du Vif, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 14, As, 2, 5, 12, 13, 11 et 3.
Alors pas de panique si vous n'avez pas eu le temps de tout noter puisque vous retrouvez ces pronostics sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Cet adversaire,
allô, Jacques Paul,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Et c'est à présent le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Ambline, bonjour Alexandre.
Il y a 28 ans, des membres d'une secte décidaient de mettre fin à leur jour ensemble. On se souvient ce matin du suicide collectif de l'Ordre du Temple Solaire, 5 octobre 1994.
Oui, 53 corps ligotés, tués par balles, sont retrouvés, certains dans le sous-sol d'une ferme en Suisse, puis quelques heures plus tard dans deux chalets à 160 km de là et près de Montréal au Canada.
Tous avec un sac poubelle sur la tête, tous assassinés par balles. Il n'y avait jamais eu d'histoire auparavant dans ce village et il y a eu donc une réunion qui a eu lieu ce week-end. Et là, des personnes ont dû mettre le feu ensuite pour effacer toutes les traces du carnage. Ils ont utilisé des bouteilles de gaz et de l'essence.
Parmi les victimes, il y a des Suisses mais aussi des Français et des Canadiens. Celui qui est considéré comme le gourou de la secte s'appelle Luc Jouret, médecin homéopathe en Suisse. Il recommandait à ses adeptes de s'armer pour se préparer à l'apocalypse.
Ces clubs étaient des clubs de type ésotérique, donnant un enseignement spirituel, par exemple des clubs écologiques, culturels, des clubs d'éducation. Parallèlement, il va entrer dans un certain nombre d'ordres du temple.
Et il devient le maître de ces petits groupes fermés.
L'une des questions qui se posent à l'époque, Laure, c'est la détermination des causes de la mort. S'agit-il bien de suicide ou d'assassinat ?
Oui, et en octobre 1994, le juge suisse chargé de l'enquête, André Piller, répond que certains se sont suicidés et d'autres ont été assassinés.
On a de la peine à trouver un dénominateur commun de quelle manière le drame s'est déroulé.
Les leaders de la secte sont morts eux aussi. L'Ordre du Temple Solaire disait à ses membres que le suicide permettrait l'accès de l'âme à une autre planète. Quelques mois plus tard, Jacques Guyard, rapporteur d'une commission parlementaire, estime qu'il y a 150 sectes en France, souvent difficiles à attaquer.
Elles recrutent de plus en plus dans des milieux de gens favorisés. Une des choses qui m'a frappé au cours de l'enquête, là, c'est le nombre de médecins, par exemple, qui sont engagés. Ce qui fait que on ne peut pas parler d'exercice illégal de la médecine quand c'est un médecin qui le fait.
L'enquête ici va durer plusieurs années. Un procès s'ouvre en 2001 à Grenoble avec un seul prévenu, Michel Tabachnik, chef d'orchestre franco-suisse qui avait des liens avec les responsables de la secte mais qui a toujours nié son implication dans l'ordre du Temple Solaire. Il sera relaxé au bénéfice du doute.
Merci beaucoup, Lord d'Autriche. Et à demain pour un nouveau jour où sur Europe 1.
5h43, bienvenue si vous venez nous rejoindre sur Europe 1. Avis aux amateurs de coquilles Saint-Jacques. Tiens, vous n'en manquerez pas cette année puisque les pêcheurs en trouvent en quantité au large de nos côtes. Éric Fouché de l'Ifremer nous dit pourquoi dans un instant.
Europe Matin, Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Il est 5h44, c'est un mets qu'on devrait trouver en abondance sur les étals des poissonniers. On vous en parlait dès ce lundi sur Europe 1. La pêche à la coquille Saint-Jacques va connaître une année record dans la Manche. La saison de la pêche vient de débuter et la Saint-Jacques ne s'est jamais aussi bien portée. Votre invité Alexandre, c'est Éric Fouché, chercheur à l'Ifremer.
Bonjour Éric Fouché.
Bonjour.
Alors, la coquille Saint-Jacques fait le délice des amateurs de fruits de mer. Et la bonne nouvelle pour eux et pour tous ceux qui les pêchent d'ailleurs, c'est qu'on ne devrait pas en manquer effectivement cet hiver. Pourquoi cette année on trouve des Saint-Jacques en abondance? Est-ce que ce sont les conditions climatiques? Est-ce que c'est la bonne gestion de la pêche qui est très réglementée, hein?
Ben, en fait, c'est tout à la fois. C'est pas une seule région. D'abord, cette année, on a un record absolu, mais on avait déjà un record absolu l'année dernière et la même chose en 2020. Donc, si vous voulez, on est dans une tendance qui est à la hausse depuis 4-5 ans maintenant. et qui est une très bonne nouvelle d'abord pour les consommateurs et pour les pêcheurs, hein, et qui s'explique à la fois par des conditions, je dirais, environnementales qui sont relativement propices à la coquille. Hein, donc ça veut dire qu'elle se trouve aujourd'hui dans une situation de température, de salinité qui lui convient parfaitement pour tout son cycle de vie. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, si vous voulez, c'est que effectivement en France, la coquille Saint-Jacques est une espèce qui est incroyablement réglementée, hein, avec des mesures de gestion qui sont très très draconiennes, hein, sur le nombre de bateaux, sur la saison de pêche, sur la sélectivité des engins, qui fait que aujourd'hui le stock se porte bien. Ceci dit, donc en Baie-de-Seine ou en Manche-Est, mais également en Bretagne Nord, donc tous les stocks pêchés et exploités par les pêcheurs français sont enlevés aujourd'hui et on ne peut que s'en réjouir.
Ouais, on rappelle effectivement que la pêche n'est autorisée qu'entre le 1er octobre et le 31 mai de chaque année. Il y a un système de jachère aussi en quelque sorte, hein. On ne pêche pas chaque année au même endroit.
Oui. Alors en fait, la pêche, vous l'avez dit, hein, est une pêche vraiment saisonnière, hein, pour la coquille Saint-Jacques, donc uniquement pendant la période hivernale. Et ça, c'est un très très gros plus parce que ça veut dire que du 16 mai au matin jusqu'à fin septembre, interdiction absolue de la pêcher. Donc la coquille, elle est en pleine période, un, de reproduction et deux, de croissance absolue. Donc si vous voulez, pendant cette période-là, elle est tranquille au fond de l'eau et elle a toute latitude pour prospérer. Donc ça, c'est le premier point. Et puis dans la saison de pêche, il y a des ouvertures qui sont différées. Donc la grande saison de pêche, c'est pour l'ensemble des eaux territoriales françaises. Mais dans chacune des zones, en baie de Saint-Brieuc, en baie de Seine, les périodes sont encore plus restreintes. Et d'un point de vue temporel, c'est-à-dire en Baie-de-Seine, par exemple, c'est ouvert que de mi-novembre jusqu'à fin mars. Et en plus, il y a des nombres de jours par semaine où la pêche est autorisée. Et dans chacun des jours, il y a effectivement plusieurs heures d'autorisée.
Il y a une taille, Éric Fouché, en dessous de laquelle on ne peut pas pêcher. On doit rejeter la coquille à la mer. Je crois qu'avant, il y avait des réglettes. Maintenant, c'est même le maillage des engins de pêche qui fait le tri tout seul.
Oui. Hein. Oui, alors le maillage a toujours été réglementé en France, hein, donc la taille minimale des coquilles Saint-Jacques est de 11 cm en manche est et de 10,2 en manche ouest. Hein. Il y a une petite différence parce qu'elle grossit un petit peu plus rapidement en manche est, hein, entre Cherbourg et la frontière belge. Et la taille des anneaux, c'est-à-dire pour capturer ces coquilles, les bateaux, les pêcheurs traînent une drague équipée d'anneaux métalliques. Ils font aujourd'hui 97 mm, c'est-à-dire pratiquement 10 cm. Ce qui veut dire que la plupart des toutes petites coquilles, celles de 1 an, celles de 2 ans, qui participent déjà à leur production, en fait, elles passent à travers les engins, elles ne sont pas du tout impactées.
D'accord.
Et c'est tout bénéfice pour la ressource, parce que ces coquilles-là restent sur le fond et ne subissent pas de mortalité due à l'engin.
Alors, à l'Ifremer, vous faites régulièrement une estimation des quantités disponibles. C'est énorme, hein, cette année, plus de 100 000 tonnes, je crois.
Oui, alors on a deux campagnes, hein, de prospection à l'Ifremer depuis de très nombreuses années, hein, depuis la toute fin des années 70. Hein. Donc une en Baie-de-Saint-Brieuc et une en Baie-de-Seine. Sur la partie Baie-de-Seine exclusivement, c'est-à-dire en dessous d'une ligne qui va de la pointe du Cotentin, du haut de Cotentin jusqu'à la Seine-Maritime, on est effectivement à une estimation de l'ordre de 100 000 tonnes, un peu plus de 100 000 tonnes de coquilles disponibles. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tout prendre, loin s'en fout, hein. Mais ça veut dire que
on peut pas tout prendre, oui.
Ah non, surtout pas. Et en Baie-de-Saint-Brieuc, on est un petit peu moins, mais la zone est beaucoup plus petite, hein. Donc en Baie-de-Saint-Brieuc, c'est pareil, on est aux alentours de 65 000 tonnes, ce qui est aussi gigantesque, si vous voulez.
Alors on ne peut pas tout prendre, et c'est ce qui explique la durabilité des gisements entre guillemets de coquilles Saint-Jacques. La question quand même que les amateurs de Saint-Jacques se posent, est-ce que cette abondance va faire baisser les prix ou rien n'est moins sûr?
Alors là, c'est très compliqué à répondre, en fait, parce que ça dépend vraiment des fluctuations du marché et de la demande. En fait, pour être honnête, vraisemblablement non, parce que en France, on consomme énormément de coquilles Saint-Jacques, hein, coquilles Saint-Jacques au sens large, donc aux alentours de ce qui est estimé de 200 000 tonnes équivalent frais, et on en produit 35 à 40 000 tonnes aujourd'hui. Oui. Donc de toute façon, il y a une partie encore qui va venir de l'export. Donc la coquille Saint-Jacques française, hein, celle qu'on pêche par les pêcheurs bretons et normands, est essentiellement mise sur le marché du frais. Donc c'est une coquille qui va rester, selon toute vraisemblance, dans les mêmes ordres de grandeur de prix, hein, que les saisons précédentes.
Oui, on dit entre 5 et 8 kilos avec la coquille, hein, bien sûr, à ce prix-là, selon qu'on est en vente directe ou chez le poissonnier. J'ai une dernière question, Éric Fouché. Est-ce que vous consommez votre objet de recherche? Est-ce que vous aimez les Saint-Jacques?
Alors oui, moi personnellement, j'en mange beaucoup. Alors, bien sûr, parce que moi j'ai la chance aussi de vivre le long de la côte normande et à côté du premier port de production française, hein, qui est Port en Dessin. Donc la coquille, moi je l'ai pas au prix qu'on peut la trouver dans la région parisienne.
Et
j'ai cette chance-là donc de pouvoir en trouver à des prix corrects et surtout
une petite recette à nous conseiller. Éric Fouché, votre recette préférée que vous nous conseillez ce matin ?
Ah ben, moi, c'est de la coquille le plus simple possible avec un beurre d'escargot, c'est merveilleux.
Le plus près du goût, exactement, voilà, pour ne pas masquer le goût de la Saint-Jacques. Merci beaucoup Éric Fouché, chercheur à l'IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Merci à vous.
Merci.
Europe Matin.
À 5h50 sur Europe 1, les titres de ce mercredi 5 octobre, Alban Le Prince.
Le ministre belge de la Justice, récemment visé par une tentative d'enlèvement, dénonce la mafia de la drogue. La Belgique devient, selon le procureur de Bruxelles, un narco-État, notamment du côté du port d'Anvers. Plaque tournante du trafic de cocaïne. En 8 ans, les saisies ont été multipliées par 14. Une réunion à Bercy. Aujourd'hui, les fournisseurs d'énergie sont convoqués au ministère de l'Économie, accusés de ne pas jouer le jeu en gonflant les prix proposés aux PME. Objectif, obtenir des garanties pour que les entreprises puissent elles aussi traverser cette crise énergétique. Et puis les députés NUPRN vent debout hier soir contre la réforme de l'assurance chômage. Sa mesure phare a tout de même été adoptée, prévoyant une modulation de la durée d'indemnisation en fonction de l'état du marché du travail. Objectif, le plein emploi avec un taux de chômage à 5% d'ici 5 ans.
Europe Matin.
5h51, merci d'écouter Europe 1 pour commencer votre journée et découvrir la prescription culture.
On va retrouver Laurie Choleva pour les sorties cinéma du mercredi.
Mais d'abord le conseil lecture de Nicolas Caro, bonjour.
Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
Alors Nicolas, ce matin vous avez du lourd, hein, du lourd au sens propre même.
Alors effectivement, 900 pages, regardez, mais j'y reviendrai. Le livre s'appelle Le cœur ne cède pas chez Flammarion, signé Grégoire Bouillet. Grégoire Bouillet qui déjà avait signé le dossier M, 2 tomes de 800 pages, mais hé, c'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas ? Encore que ça a son importance.
Qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre ?
Voilà, c'est ça le plus important. Il raconte sa vie. Mais dans sa vie, dans un moment de flottement, il se rappelle une vieille émission de radio entendue il y a des années de ça. On y parlait d'un fait divers glauquissime. Une femme, 64 ans, ancienne mannequin, retrouvée momifiée dans son appartement parisien, découverte 10 mois après sa mort. Elle s'était laissée mourir de faim et avait tenu son journal pendant 45 jours d'agonie. C'était en 1985.
Effectivement, c'est pas très très joyeux. Pourquoi il s'y intéresse ?
Il ne sait pas exactement, ça le travaille. Au début, il n'a rien, rien du tout, à part ce vague souvenir. Et puis, il retrouve l'émission en question grâce à un type rencontré par hasard qui travaille à l'INA. On avance, elle s'appelait Marcel Pichon, elle était effectivement mannequin. Quelques infos de plus, des extraits de son journal aussi. Mais d'ailleurs, où est-il ce carnet ? Alors il cherche, ça l'obsède, il ne pense plus qu'à ça et il mouille la chemise. Il découvre les sites d'archives, puis il se déplace, a-t-elle des descendants ? On va voir. Et voilà, Grégoire Bouillet est surmotivé, il reprend vie et on le suit dans son enquête. Il se prend pour une sorte de détective à l'ancienne, genre Nestor Burma, avec un vieux bureau et une bouteille de whisky dans le tiroir. Il lui faut une assistante, il crée seulement dans son imagination cette fois, Penny, assistante très efficace.
Et donc, c'est de la fiction ?
Non, tout est vrai à part cette histoire de détective, mais il s'amuse aussi en même temps. Il nous raconte ses déboires personnels aussi. Il continue toujours d'avancer et ça marche. Et c'est très entraînant. Il y a des photos, des documents, même le thème astral de Marcel Pichon réalisé par Elisabeth Tessier. La revoilà. On veut savoir, le texte est aéré, les 900 pages, on en redemande. Et puis, miracle des imprimeurs modernes, ça ne pèse rien. C'est très agréable à lire et c'était ce qu'il fallait. Et puis, bonus, à la fin, un autre écrivain s'immisce dans le livre pour l'aider. Je ne vous dis rien, il y a 800 pages avant d'en arriver là, mais allez-y, c'est du garanti. D'ailleurs, il est sur toutes les listes de prix en ce moment.
Grégoire Bouillet, donc Le cœur ne cède pas, c'est chez Flammarion. Merci beaucoup, Nicolas. Et on retrouve à présent Laurie Choleva pour le rendez-vous ciné du mercredi. Bonjour.
Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
Bonjour Laurie. Alors Laurie, Cédric Jiménez est de retour, hein, le réalisateur de Bac Nord.
Oui, et après son percutant Bac Nord, donc, il quitte le quartier chaud de Marseille pour s'intéresser aux attentats du 13 novembre 2015, avec Novembre qui reconstitue l'enquête incroyable qui a conduit à l'arrestation, ou plutôt la mort, des auteurs des attentats. Alors on se retrouve donc juste après les fusillades au cœur de l'antiterrorisme pendant les 5 jours qui ont suivi les attentats. Et on va suivre plusieurs personnages dans leur enquête. C'est une véritable fourmilière. Il y a Héloïse, jouée par Sandrine Kiberlin, la contrôleuse générale de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire. Sous elle, on retrouve le commissaire divisionnaire incarné par Jean Dujardin qui lui chapeaute tous les enquêteurs. On retrouve une jeune capitaine de police en charge des écoutes interprétée par Anaïs Demoustier et puis plusieurs autres personnages, mais surtout un personnage clé qui a réellement existé, celui de la civile qui a permis d'identifier où se cachaient les terroristes encore vivants.
Dans quelques instants, la France va se figer pour une minute de silence.
Faisait quoi le soir du 13 novembre?
Tout ce que je peux vous dire, c'est que la main qui vous frappe, elle va encore vous frapper.
Il y aurait deux terroristes, peut-être trois, en fuite dans Paris. Je veux que tous les indiques, tous les infiltrés, tous les flics de France se coordonnent.
C'est un film incroyable hein, qui nous tient en haleine, en apnée du début à la fin. On connaît l'issue et pourtant on est pris par cette fourmilière de police, les mauvaises pistes, les déceptions, le dysfonctionnement du système, les allées et venues des uns et des autres, avec cette mise en scène à la Cédric Jimenez très nerveuse, des acteurs impeccables. Et puis surtout la force du film, hein, c'est que Cédric Jimenez ne montre pas les attentats, il montre uniquement l'urgence et comment tous ces hommes ont mis leur vie entre parenthèses pour arrêter les criminels.
Vous nous conseillez également, Laurie, aujourd'hui un thriller avec Laure Calamy.
Oui, L'origine du mal de Sébastien Marnier, que j'ai adoré, avec Laure Calamy qui est époustouflante, mais aussi Jacques Weber, Dominique Blanc ou encore Doria Tillier. C'est vraiment ce que l'on appelle un film d'ambiance. Dans L'origine du mal, Laure Calamy incarne Stéphane, une femme modeste qui se rend dans une magnifique villa rencontrer son père qu'elle n'a jamais connu. Elle va faire la connaissance de sa demi-sœur Georges et des autres femmes de cette famille très mystérieuse. Alors pourquoi a-t-elle envie de rencontrer son père? D'où vient cette tension qui règne dans la maison? Qui manipule qui et surtout qui est Stéphane? Vous verrez, c'est un film surprenant, c'est un thriller avec, je le disais, Laure Calamy incroyable.
Novembre de Cédric Jimenez et L'origine du mal. Donc deux raisons cette semaine d'aller au cinéma. Merci beaucoup Laurie Choleva et on vous retrouve tous les samedis sur Europe 1 dans votre émission Clap entre 17h et 18h. Dans 3 minutes, il sera 6h. Bon réveil, bon mercredi matin. À 6h40, votre interview écho, Alexandre.
Y aura-t-il des coupures de gaz et d'électricité cet hiver? Vous savez que le gouvernement fait peser cette responsabilité en grande partie sur les entreprises. Alors comment se préparent-elles à modérer leur consommation? Peuvent-elles et vont-elles le faire? À 6h40, je recevrai Nicolas de Varenne, président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie.
Au menu également le pressing, votre revue de presse décalée.
Et à 6h20, votre partition, Omblin.
On fait l'appel. Andrea, Sharon, Caroline, Jim, nom de famille, Cor. Le groupe familial irlandais de Corrs, leur enregistrement live pour la chaîne MTV en 99. Rendez-vous dans 20 minutes.
Le journal de 6h sur Europe 1.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
Une avancée cruciale pour les malades du cancer. On vous parle d'une nouvelle chimiothérapie ce matin sur Europe 1. C'est une découverte du CNRS qui pourrait bien permettre d'éviter les hospitalisations à répétition. Que reste-t-il de la galaxie Mohamed Merah? 10 ans après les attentats de Toulouse, 6 personnes ont été interpellées hier. Information que Europe 1 vous révélait dès ce mardi. Et puis une victoire qui relance l'OM dans la Ligue des Champions. Après un match fou, le club marseillais s'est imposé 4-1 face au Sporting Portugal. Le journal de 6 heures, préparé et présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. C'est une révolution qui pourrait bien changer le quotidien de 347 000 Français. Autant de malades du cancer sous chimiothérapie, un traitement par intraveineuse, lourd, contraignant, qui nécessite un passage par l'hôpital. Enfin, peut-être plus pour longtemps. Une étude ouvre la voie à une chimiothérapie sous-cutanée, moins invasive. Ces chercheurs sont français et américains, encadrés par le CNRS. Une étape majeure dans la prise en charge des patients à domicile. Yasmina Katou.
S'injecter une chimiothérapie comme un diabétique s'injecterait de l'insuline sans avoir un petit boîtier implanté sous la peau relié en permanence à une veine. Pour cela, les scientifiques ont modifié un principe actif pour lui permettre de passer dans le sang sans stagner sous la peau. Julien Nicolas, directeur de recherche au CNRS et responsable de l'étude.
On a modifié en fait ce principe actif, on l'a accroché à une chaîne de polymères. Donc un polymère, c'est une macromolécule. Ce conjugué, principe actif polymère, va être soluble dans l'eau, va migrer du tissu sous-cutané vers la circulation sanguine. Comme pour une chimiothérapie classique injectée par voie intraveineuse, mais nous, on sera passé par la voie sous-cutanée.
Cette découverte faciliterait l'accès à la chimiothérapie et améliorerait le confort des patients.
Le geste est simple, exécuté, il n'y a pas besoin de personnel qualifié ni d'infrastructures spécialisées, il n'y a pas besoin a priori d'hospitalisation. Laisser les patients chez eux leur permettre de recevoir leur traitement à domicile par une simple injection sous-cutanée, par une infirmière par exemple, ça pourrait être un gros progrès.
Julien Nicolas et d'autres chercheurs Pfizer espère récolter 2,5 millions d'euros pour commencer les essais cliniques d'ici 2 ans.
Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1.
C'est une information qu'Europe 1 vous révélait dès hier. L'interpellation de 6 femmes proches de la famille de Mohamed Merah, le terroriste de Toulouse et Montauban.
Oui, ces femmes sont soupçonnées d'être parties en Syrie avec leurs enfants entre 2013 et 2014. Un coup de filet plus de 10 ans après ces attentats. Alors que reste-t-il de la galaxie Merah? Les informations de William Molinier.
L'affaire Merah commence en réalité au milieu des années 2000. L'Albigeois Thomas Barnoin ou encore le Toulousain Sabri Essid, originaire de la cité des Isards, recrute à l'époque des jeunes pour les envoyer en Irak. De cette nébuleuse toulousaine, beaucoup sont morts, emprisonnés en Syrie ou derrière les barreaux en France, mais restent les femmes rarement inquiétées car longtemps considérées comme des seconds rôles dans les enquêtes antiterroristes. Alors il est vrai, elles n'ont pas participé directement au passage à l'acte de Mohamed Merah, mais les 2 procès qui ont vu son frère Abdelkader Merah condamné à 30 ans de prison, dont 2/3 de sûreté, ont démontré qu'elles ont fait prospérer un islam radical au sein du clan. Selon nos informations, ces 6 femmes se sont montrées aguerries lors des filatures des enquêteurs, particulièrement vigilantes dans leurs déplacements et précautionneuses au téléphone, comme si 10 ans après l'affaire Merah, elles tentaient toujours de rester sous les radars.
William Molinier, le démantèlement des cellules terroristes, justement, c'est le scénario du film Novembre qui sort aujourd'hui en salle à l'affiche. Jean Dujardin, qui était l'invité d'Europe 1 d'ailleurs hier, Anaïs Demoustier et Sandrine Kimberlin.
Le cinéma français qui apporte aussi son soutien aux femmes iraniennes, des réalisateurs, des acteurs, 1 millier de personnalités a signé une tribune, un appel intitulé « Femmes, vie, liberté ». C'est un hommage au slogan des manifestantes.
Oui, au moins 92 morts d'après une ONG iranienne en exil. Parmi ces victimes, des femmes, bien sûr, cibles de la répression brutale de Téhéran, Hadis, Anané, Ghazaleh. Certaines sont devenues les symboles de cette mobilisation. Chloé Lagadou.
Cette voix, c'est celle de Nika Shakarami, une adolescente de 17 ans. Disparue au cours d'une manifestation il y a 10 jours, les forces de sécurité iraniennes viennent de rendre son cadavre à ses parents avec le nez et le crâne fracturés. Et ce n'est pas la seule. Plusieurs dizaines de femmes abattues, devenues les visages de la revendication et donc les premières cibles du régime, explique Thierry Coville, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Je crois que c'est jamais arrivé en Iran. Les femmes sont en tête et là, ils font face à un mouvement qui n'a pas de leader. Donc c'est vrai qu'on peut l'avoir l'impression d'une répression tous azimuts parce que à mon avis c'est un mouvement qui est difficile à contrôler pour eux parce qu'il éclate partout. On a effectivement des tirs à balles réelles, donc l'idée c'est de réprimer et de mettre fin à ce mouvement le plus rapidement possible.
Une répression qui n'empêche pas les adolescentes aux cheveux découverts dans les collèges et lycées de continuer à lutter pour la liberté.
Le récit de Chloé Lagadou. A noté que l'Union européenne a annoncé hier l'examen de sanctions contre Téhéran. 6h04 sur Europe 1, des avancées puissantes dans le sud de l'Ukraine. Message de Volodymyr Zelensky publié hier soir sur les réseaux sociaux. Selon le président ukrainien, l'armée aurait repris 1 dizaine de localités.
Voilà, Volodymyr Zelensky en a aussi profité pour remercier les États-Unis puisque Washington va envoyer 625 millions de dollars d'aide supplémentaire.
Et la guerre, la crise de l'énergie aussi qui plombe le secteur de la construction jusque chez nous en France. Batimat, c'est le nom du salon organisé jusqu'à demain, porte de Versailles à Paris. La grand messe des professionnels est de retour après 2 ans d'absence. Des retrouvailles toutefois gâchées par la hausse des prix des matériaux. Dans les allées du salon, Clément Barguin et son micro Europe 1.
Il y a encore quelques mois, s'approvisionner en matériaux de construction comme le bois ou le métal était un casse-tête pour Valentina Angioletti, responsable commerciale chez Diazen, un fabricant d'enduits isolants.
Ça va un peu mieux. On a la possibilité d'avoir des matières premières dans les temps utiles et on arrive à fabriquer plus rapidement par rapport aux mois précédents.
Des matières premières plus facilement accessibles mais dont les prix augmentent très fortement. Guillaume Picot, spécialiste de l'isolation thermique, subit de plein fouet la hausse des coûts de l'énergie.
Nos produits passent dans un four qui fait 60 mètres de long et qui chauffé au gaz, donc quand le prix du kilowattheure est multiplié par 20 ou 30, c'est des augmentations à 300-400%, donc c'est vraiment très très important.
Une flambée des prix que de nombreuses entreprises sont obligées de répercuter sur les particuliers. Camille Penel est chef de projet chez Hirsch Isolation.
Il y aura une hausse en début d'année pour couvrir les augmentations de matières premières, c'est certain. Sûrement dans la flotte 10-15%. L'idée, c'est pas d'être décorrélé du marché, mais c'est de pouvoir survivre et quand même gagner notre vie.
Les professionnels du bâtiment s'inquiètent pour leur carnet de commandes. C'est le curieux paradoxe. Les produits enfin disponibles risquent d'être trop chers pour les clients.
Le reportage de Clément Barguin. 6h06 sur Europe 1, votre actualité sportive. Et c'est ce qui s'appelle avoir le sens du timing. Après les stades de football climatisés du Qatar, voici les Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. Et on parle bien de compétition de ski, hockey sur glace et patinage en plein désert pour 2029. Un choix validé hier et à l'unanimité par le Conseil Olympique d'Asie.
Une compétition d'hiver qui va donc se dérouler dans une ville d'Arabie Saoudite qui sortira de terre, enfin de sable hein, pour l'occasion. On va en reparler dans quelques minutes avec Johan Tritz. Rendez-vous sur Europe 1 pour le pressing juste après votre journal, Roman.
L'actualité du sport, c'est aussi la victoire renversante de l'OM en Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille s'est imposé 4-1 face au Sporting Portugal hier soir. De quoi relancer la course à la qualification et pourtant, c'était loin d'être gagné. Jean-François Pérez.
D'abord, cette petite musique de la Ligue des Champions qui résonne dans ce vélodrome à huis clos avec des Portugais arrivés en retard pour le coup d'envoi, mais qui ouvrent le score d'entrée. L'OM boit la tasse. Et puis Sanchez, le Chilien, qui sonne la révolte en contrant le gardien adverse. Harit, superbe de la tête sur un centre de Klose. Ce même gardien du Sporting qui prend un rouge, improbable pour une faute de main hors de sa surface. Dans la foulée, Balerdi, le défenseur maudit de l'OM, qui marque de la tête à 11 contre 10. Et Bemba, qui clôt le score de ce 4-1, la plus large victoire marseillaise depuis des lustres en Ligue des Champions. C'était un match fou et le gardien espagnol de l'OM, Paulo Lopez, a apprécié.
Les trois points sont très importants pour nous. Content pour l'équipe. Aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Sans le public, je pense qu'ils sont contents à la maison.
Cet OM déconcertant, qui n'avait plus marqué de but dans le jeu depuis 10 ans, dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, se relance donc face au leader du groupe, le soir où on s'y attendait le moins. Match retour à 11 contre 11 et dans un stade plein dès mardi prochain à Lisbonne pour confirmer cette spectaculaire renaissance.
Jean-François Pérez du service des sports d'Europe 1 qui vous donne rendez-vous ce soir 20h-23h autour de Virginie Fulpin pour suivre Benfica PSG, phase de groupe de la Ligue des Champions toujours, qui doit départager les deux leaders du groupe H.
C'était le journal des sports avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
C'était le journal de 6h sur Europe 1. Merci Roman, ok.
Il est 6h09 sur Europe 1 et vous restez avec nous, car dans un instant, le pressing.
Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
Très bon début de matinée sur Europe 1, 6h11, nous sommes le mercredi 5 octobre et c'est l'heure du pressing.
Oui, et nous ne sommes pas trop de trois hein, pour passer en revue les journaux du matin. Avec nous, Johan Tritz, qu'avez-vous repéré dans la presse, Johan ?
Eh bien, c'est un peu la stupeur quand j'ai ouvert le journal Aujourd'hui en France ce matin. Figurez-vous qu'on peut y lire un article d'une page sur les Jeux asiatiques d'hiver 2029, obtenu à l'unanimité par l'Arabie Saoudite. Oui, vous avez bien entendu, à l'heure où les appels au boycott pour des raisons notamment environnementales sont nombreux pour la Coupe du Monde au Qatar. Cette nouvelle de donner cette organisation un royaume désertique peut surprendre, mais pour cette nouvelle édition des Jeux Asiatiques, disparue depuis 2017, il n'y avait qu'un seul candidat. En 2029, il y aura donc des compétitions de ski, hockey sur glace, patinage au milieu de sable brûlant et d'une ville qui n'existe pas encore. Le prince héritier et Mohamed Ben Salman, qui a les pleins pouvoirs dans le pays, va construire une mégalopole futuriste au bord de la mer Rouge appelée Neom. Elle sera inspirée des décors du film Les Gardiens de la Galaxie, dont il est fan. Une cité avec de grands buildings qui pourra accueillir 1 million d'habitants, sans voiture, où le réseau de transport souterrain sera alimenté à l'hydrogène. Sa longueur, 170 km, soit une superficie égale à la Belgique, et son coût, 500 milliards de dollars. La population locale, elle, a déjà été évacuée de force. Financial Times parle même d'un habitant abattu par les forces de sécurité. Mais où va-t-on mettre les pistes de ski dans tout ça, me diriez-vous ?
Et la neige ?
Eh bien, juste à côté, dans les monts du Sarawak, qui culminent à 2600 mètres d'altitude, mais où la neige n'est pas présente, même si les températures peuvent descendre à 0 degré en haut. Alors du coup, rebelote, autre projet appelé Trojena, avec un lac artificiel, construction de chalets, centres commerciaux hyper luxueux. Des pistes seront créées et ouvertes à l'année, à grand renfort de canons à neige et d'engins de refroidissement surpuissants. Les associations dénoncent une catastrophe écologique. Le promoteur, lui, un respect de l'environnement en redéfinissant le tourisme de montagne. L'Arabie Saoudite, qui ne compte pas s'arrêter là, et vise la Coupe du Monde de foot 2030 et les JO 2040.
Les Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite.
Alors, les JO d'été, hein, je ne pense pas que ce soit les JO d'hiver à ce moment-là. Mais
en tout cas, de la neige, vous parlez de pistes de ski.
Oui, pistes ouvertes à l'année, donc qui ont vous allez pouvoir, comme dans les Alpes, aller en vacances.
C'est fascinant parce qu'on parle de sobriété énergétique. On est en train de se demander, nous, de notre côté, quand est-ce qu'on va devoir choisir entre la bouilloire et le four.
C'est ça. Oui, on marche sur la tête, c'est ce que vous cherchez.
Moyen illimité, en tout cas, en Arabie Saoudite pour ce projet.
Omblin, votre sélection du matin.
Bon,
on change de sujet.
Oui,
hein.
Totalement. Et cette saison, promis. Bah oui, parce que nous allons nous balader en forêt.
Devinez quoi ? Les châtaignes sont tombées, nous allons les ramasser.
Je ne connaissais pas celle-là.
Quelle est donc
cette gentillette confine ?
Nous allons ramasser les châtaignes. Annie et Jean-Marc Versini chantent Les châtaignes sont tombées. Vous pouvez la trouver sur Internet si cette chanson vous intéresse.
On peut les ramasser.
Oui.
Et les cuisiner.
On peut ramasser les châtaignes, mais arrêtons quand même de dire n'importe quoi. Ce ne sont pas les marrons qui sont chauds. Ce ne sont pas les marrons qui sont glacés, non. On n'adore pas la crème de marron, on adore la crème de châtaigne.
Ne pas confondre.
Et pourquoi c'est important ? Oui, pourquoi il ne faut pas confondre châtaigne et marron ? La confusion est toxique, c'est le rappel nécessaire et de saison donc du Figaro ce matin. Un tout petit article en bas de page, mais qui ne manque pas d'intérêt. Comme chaque année, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, nous alerte. Les 8 centres anti-poison du territoire national reçoivent une centaine d'appels chaque année après des indigestions de marrons. Et quand on mange des marrons, bonjour, les troubles digestifs.
Oui, ça rend malade.
Voilà, rien de grave. Vous n'allez pas vous empoisonner, vous risquez quand même de passer un très très mauvais moment. Faites surtout attention quand même à vos enfants. Les châtaignes sont bonnes, voire excellentes. Les marrons, eux, sont donc toxiques. C'est l'une des erreurs alimentaires les plus fréquentes en France. On doit d'ailleurs dire les marrons d'Inde. Les marrons d'Inde, ça s'appelle des marrons d'Inde.
D'accord.
Voilà. Comment ne plus se tromper de démasquer ce marron d'Inde qui se prend pour une châtaigne ?
Vous avez même vos petites photos, vos schémas avec vous.
Est-ce que vous savez les distinguer ? C'est facile.
Aucunement. Ouais, enfin, bah, la châtaigne est dans sa gogue, on dit, c'est ça ?
Voilà.
C'est
la bogue. Alors, c'est pas très compliqué. Hein. Les pics longs, il y en a beaucoup. Pas simple de les ramasser à la main. Là, ça, c'est la châtaigne. Et cette peau, donc, qu'on appelle la bogue, voilà, vous la voyez ici, elle est composée de pics courts et très espacés pour le marron. Donc la châtaigne,
oui, ça
pique et les marrons, ça pique pas. Et puis sachez que le marron est tout rond, la châtaigne, elle, est petite et elle a une petite pointe blanche surtout. Et oui.
Petite pointe blanche.
Voilà, petite pointe blanche. Annie et Jean-Marc Versini chantent plus, c'est pas grave. La châtaigne, voilà.
Ah, voilà. On s'en lance pas, on s'en lasse pas.
Non mais du coup, dans les magasins, on dit toujours crème de marron, enfin il n'y a
mais
pas beaucoup de crème de châtaigne.
Non mais en fait, c'est un abus de langage.
Oui.
Ce sont des crèmes de châtaigne. C'est la châtaigne qui est cuisinée et non pas le marron, mais on appelle ça les marrons.
J'aime plein.
C'est juste un problème de nom. Donc vous trompez pas, châtaigne bien, marron pas bien, confusion toxique dans le Figaro.
Vous avez encore réussi à nous mettre ça dans la tête pour la journée, Omblin. Je ne vous remercie pas.
Oh, vous devriez pourtant. C'est à vous, Alexandre.
Ben, on va rester dans le régime alimentaire. Tiens, moi, je vous propose d'adopter le régime du futur. C'est le Parisien qui se lance ce matin. Des chercheurs ont imaginé le contenu de nos assiettes en 2050. Et oui, parce que nos habitudes alimentaires vont changer, de gré ou de force. De gré, parce qu'on se préparera des petits plats qui seront plus respectueux de la planète.
Oui.
De force, sinon, si on attend que le réchauffement climatique se charge de choisir à notre place. Alors, en 2050, en gros, vous faites deux colonnes. Il y a d'un côté les aliments qu'on trouvera de plus en plus à table, et puis de l'autre, ceux qui seront en baisse ou alors totalement remplacés. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Vous connaissez la chanson ?
Bien sûr.
Eh bien, oubliez. Dans 30 ans, le lait de soja et d'amande pourraient les remplacer. Moins de viande, bien sûr. Dans le scénario des chercheurs, la consommation de viande devrait être divisée par 3. Beaucoup de produits en cuisson basse température ou en marinade. Et oui, c'est moins énergivore à cuisiner. Alors, il y a toute une liste de produits qui sera plus difficile à trouver dans 30 ans, nous disent les chercheurs, à cause que ce soit les transports ou les aléas climatiques. Le café, le cacao, donc le chocolat,
bien sûr,
les fruits tropicaux, en fait tous les produits qui viennent du bout du monde. Dans la même logique, le jus de pomme ou le jus de raisin, produit en France, devrait éclipser petit à petit le jus d'orange. Notre meilleur allié en 2050, ce seront les circuits courts. Et oui, les fruits et légumes de saison évidemment, on pourrait être plus nombreux encore à jardiner, à avoir notre potager. Alors dans ce scénario, parce que ce n'est qu'un scénario de la génération sobre, il y a aussi des pistes intéressantes ou angoissante, c'est selon, vous allez vous me dire. Oubliez l'appareil à raclette individuel. Ça ne veut pas dire oublier la raclette tout court, mais tous les appareils fondus, pierrades que vous avez à la maison, eh ben, ils seront mutualisés. Vous les emprunterez, par exemple, chez le fromager. Moins de surgelés, moins de produits transformés. Et puis enfin, adopter le régime du futur en 2050, eh ben, c'est faire une croix sur la livraison de pizza à domicile. Alors, pizza ou autre, beaucoup trop énergivore, sauf évidemment si elle arrive à vélo. Hein. Mais bon, ça dépend à quelle distance vous faites livrer la pizza ou l'Indien ou le Japonais.
Merci beaucoup Alexandre, c'est dans le Parisien. Hein.
C'est à lire dans le Parisien aujourd'hui en France.
Et c'était le Pressing. Merci Alexandre, merci Johan. Et à tout de suite avec la partition sur Europe 1.
Très bon réveil avec nous sur Europe 1, 6h21. C'est votre partition, Omblin. On revient le 5 octobre 1999. Le groupe de Corrs monte sur la scène des studios Ardmore, à Wicklow, juste au sud de Dublin, en Irlande.
Please welcome the Corrs.
C'est un enregistrement, Alexandre, dans le cadre de l'émission musicale de MTV baptisée Unplugged. Le principe est simple, hein, vous le connaissez sans doute. La chaîne de télé américaine propose à des artistes d'envergure internationale de jouer des morceaux avec des instruments débranchés. C'est ce que veut dire Unplugged.
MTV Unplugged, c'est un programme phare, hein, oui. Omblin, dans les années 90. C'est vraiment une institution.
Absolument. Hein. Après Nirvana, Eric Clapton et Alanis Morissette, les quatre membres, frères et sœurs de The Corrs, prêtent donc au jeu. Pour eux, le changement est moins radical. Alors, il convient un orchestre classique pour donner une nouvelle dimension à leur répertoire.
Vous avez cité quelques-uns, hein, c'est les plus grosses pointures à l'époque qui sont invitées sur le MTV Unplugged et bien évidemment au moment où ils y vont, les Corrs sont au sommet de la gloire.
Et oui, grâce au succès mondial du deuxième album Talk on Corner, cette notoriété, la famille Corrs a mis plusieurs années à la bâtir. Il faut dire qu'on les a vus débarquer depuis leur campagne irlandaise en plein milieu du raz-de-marée provoqué par les boys bands au moment où la musique pop est manufacturée, construite autour de boîtes à rythme.
Mais oui, parce que les racines musicales, hein, des Corrs, oui, c'est bien la pop.
Et oui, voilà, ne les imaginez pas en train de grandir en écoutant de la musique celtique, même si la tradition n'est jamais loin et on l'entend, mais ce qui résonne à la maison, c'est Prince, The Police et U2, bien sûr.
Chez les Corrs, Omblin, on est donc musicien de père en fille.
Et de mère en fils. Les parents se produisaient dans les années 70 et 80 dans les salles des fêtes autour de leur fief, Dundalk, tout près de la frontière avec l'Irlande du Nord. La musique est donc une évidence pour Andrea, la plus jeune, la jolie brune, dotée d'un grain de voix délicat. Une évidence pour la sœur aînée Sharon, qui rend le violon aussi pop et sexy qu'une guitare. Il y a aussi Caroline, la batteuse. Et puis le frère, Jim, plus réservé que ses sœurs, mais ne vous méprenez pas. Il est le moteur, l'initiateur, le Corrs qui a lancé l'aventure, le plus ambitieux des quatre.
Vous parliez il y a un instant, Omblin, du raz-de-marée des boîtes à rythme. Ce qui fait leur force, finalement, à l'époque, c'est d'être à contre-courant.
Et oui, d'être en marge de la Britpop. Si, lorsqu'ils commencent, The Corrs n'intéresse pas encore les radios britanniques, ils suscitent néanmoins l'intérêt d'un label américain, Atlantic Records, qui possède par exemple dans son catalogue Phil Collins. Et juste avant de se produire pour MTV, le groupe compte déjà plus de 10 millions de disques vendus. There's only so much I can take. I've just gotta let it go. Yeah. And who knows, I might feel better. Yeah, yeah. If I don't try and I don't hope. What can I do to make you love me? What can I do to make? What can I say to make you feel this? Yeah, yeah, yeah. What can I do to get you there? No more waiting, no more again. No more, no more fighting, no more trying. There's no
The Corrs avec What Can I Do, extrait de l'album live MTV Unplugged, enregistré en Irlande le 5 octobre 1999.
Merci Omblin, très bon réveil. Vous êtes sur Europe 1, il est 6h25. À suivre, après le journal de 6h30, l'interview écho, on va parler de sobriété énergétique. Vous savez que c'est le mantra de cet hiver, mantra imposé par le gouvernement aux entreprises pour éviter les coupures de gaz et d'électricité. Je recevrai Nicolas de Varenne, président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie.
Et puis avant 7h, la revue de presse internationale et l'innovation avec Anis Mbida. Tout de suite.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Les narcotrafiquants ont-ils jeté leur dévolu sur la Belgique ? Anvers est-elle devenue la nouvelle Medellin ? Violence, trafic de drogue XXL, le ministre belge de la justice menacé d'enlèvement, situation inquiétante outre Quiévrin. Dans ce journal, Europe 1 vous emmène dans le port d'Anvers, épicentre de ce trafic de cocaïne. Reportage exclusif à suivre. Internet chez soi et sans lieu sous les mers. Des milliers de kilomètres de tuyaux qu'il faut maintenant surveiller. Mission d'inspection demandée par Emmanuel Macron. Un acte de malveillance mettrait à mal toutes les données de notre pays. Son nom, l'USS Gerald Ford, du nom du 38e président américain. Les États-Unis viennent de mettre à l'eau leur 11e porte-avions nucléaire. Il est le plus moderne au monde, ou quand la science-fiction rejoint la réalité. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. La Belgique est-elle devenue la Colombie d'Europe ? Des trafics de drogue dignes de Pablo Escobar, une violence inouïe qui ne cesse d'augmenter depuis des années et qui s'est accentuée ces 10 derniers jours, à tel point que le ministre de la Justice a dû être placé sous haute protection, caché pour ne pas être à la merci des narcotrafiquants.
Une situation dont tout le monde parle dans le pays. Europe a enquêté direction le port d'Anvers.
12 millions de conteneurs par an, une véritable passoire, porte d'entrée de toutes sortes de produits illégaux. Entre 2013 et 2021, la quantité de cocaïne saisie y a été multipliée par 14. Laura Van Lerberg s'y est rendue pour Europe 1 avec un ancien trafiquant, membre d'une bande dont le business a été évalué à 700 millions d'euros. Reportage.
Le rendez-vous est donné vers 9h sur le port d'Anvers. Il le connaît sur le bout des doigts. 30 ans en tant que trafiquant de drogue, en prison pendant 12 ans, sorti il y a tout juste 3 ans. La cigarette à la bouche, les verres de lunettes légèrement bleutés. Dès les premières secondes, Paul Meyer se montre loquace.
J'ai commencé très jeune et c'est devenu de plus en plus grand. La police m'a attrapé avec 80 tonnes, mais toutes les 5 semaines, nous faisions 20 tonnes.
Pour autant, il n'a rien oublié. À bord de sa voiture, direction le quai de déchargement. Le port s'étend sur plus de 129 km², une surface plus grande que la ville de Paris. À chaque terminal, des panneaux défense d'entrée, aucune caméra, seules quelques dizaines d'employés qui ne remarquent pas notre présence.
Comment c'est possible que nous puissions conduire ici ? C'est interdit et pourtant j'accède au bateau.
Des conteneurs à perte de vue et des marchandises de tout type rangées dans des hangars.
Si je veux faire quelque chose, je sais quelle compagnie c'est et je peux voir où je peux acheter ces produits, mettre quelque chose dans ces produits et laisser le bateau me l'amener. Let the boat
and here I bring. Après 15 minutes, toujours aucune remarque des agents, Paul Meyer discute avec l'un d'eux.
Le port est-il étanche ?
Et pour les trafiquants, s'attirer leur service est presque devenu monnaie courante.
Sont-ils corrompus ? Je dis toujours qu'ils sont humains. Les bénéfices sont énormes dans la cocaïne.
À Anvers, le trafic de cocaïne est estimé à 50 milliards d'euros par an. Florence Angelici, porte-parole du service public fédéral des finances et de la douane.
C'est un port très vaste, très étendu et difficile à surveiller. Une grande demande en Europe. La cocaïne qui est vendue en Europe est vendue plus cher que dans d'autres pays.
Mais seuls 2% des conteneurs sont vérifiés par an. Pour renforcer les contrôles, le gouvernement prévoit un investissement de 70 millions d'euros.
Laura Van Lerberg, correspondante d'Europe 1 en Belgique.
Europe 1 vous le révélait dès lundi. Après le sabotage des tuyaux des gazoducs en mer Baltique, Emmanuel Macron a demandé le renforcement de la sécurité des câbles sous-marins français.
Des kilomètres de tuyaux posés au fond des mers qui nous relient au reste du monde et nous permettent d'échanger des données. Alors on n'y pense pas forcément, mais c'est par là que passe Internet, Baptiste Morin.
Oubliez le cloud. Internet, c'est d'abord des câbles, 450 câbles qui tapissent nos océans. 1,3 million de kilomètres linéaires, de quoi faire plus de 30 fois le tour du globe. 99% du réseau Internet mondial passe par ces câbles. Imaginez des câbles qui ressemblent à des tuyaux d'arrosage au centre, non pas de l'eau, mais de la fibre optique. Ces câbles sont devenus essentiels aujourd'hui, comme l'explique Asma Mala, spécialiste des enjeux géopolitiques du numérique.
Vous sabotez un câble qui relie la France avec les États-Unis, oui, vous allez réellement mettre en difficulté l'économie française, ses flux, mais aussi l'accès aux renseignements, et notamment les renseignements militaires.
Avec ses grandes façades maritimes, la France est logiquement le pays d'Europe le plus connecté et la porte d'entrée du continent. Il y a la côte ouest, mais aussi la côte sud. Prenez Marseille, 8 câbles y relient la France à l'Afrique et à l'Asie. En 2015, un de ces 8 câbles avait été endommagé et 80% de l'internet algérien avait été coupé pendant 5 jours.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.
Europe 1, 6h34 à Marseille. Dernière ligne droite pour le procès de l'accident du car de Millas.
Oui, après 3 semaines d'audience, le procureur doit faire ses réquisitions aujourd'hui. La conductrice du bus, Nadine Oliveira, seule mise en cause, encourt jusqu'à 5 ans de prison. Parmi les 6 victimes de cet accident, le petit Jonas, 11 ans, l'avocat de sa famille, maître Julien Audier-Soria, espère que la responsabilité de la accusé sera établi.
Les débats depuis ces 3 semaines ont permis de faire émerger des charges solides à l'encontre de Nadine Oliveira. Et le rôle du procureur de la République, c'est ça, c'est de les mettre en lumière et d'expliquer avec pédagogie pourquoi Nadine Oliveira est responsable de l'infraction qui lui est reprochée. On attend effectivement une condamnation qui viendra définitivement clore les débats et en certaine manière ramener la vérité judiciaire. Du côté des familles que je représente, on n'est pas nécessairement dans la vengeance. Il ne viendra pas cette condamnation les apaiser définitivement. Ils sont rentrés ici avec la conscience de ce que le résultat ne viendra pas changer le cours de leur vie, même si d'une certaine manière, la condamnation de Nadine Oliveira viendra s'inscrire en parfaite cohérence avec tout ce qu'ils ont entendu depuis le début de ce procès.
Maître Julien Audier-Soria au micro Europe 1 de Nina Pavan. Le procès de l'accident de Millas qui a tué 6 collégiens et en a blessé 17 autres doit s'achever ce soir après les plaidoiries de la défense. Le verdict sera mis en délibéré pendant 1 à 2 mois.
Dans l'actualité internationale, les premières manœuvres pour l'USS Gerald Ford, le 11e porte-avions de la flotte américaine.
Du nom du 38e président des États-Unis, il a quitté son port d'attache hier pour des exercices avec les pays de l'OTAN. Bâtiment impressionnant dont le lancement est crucial pour les Américains. Il doit prouver la supériorité de l'US Army sur ses rivaux, Alexis Guilleux.
Oui, et ce navire a coûté 13 milliards de dollars et il emmène avec lui quelques bons technologiques par rapport à ses petits frères, les 10 autres porte-avions américains de la classe Nimitz, à commencer par des catapultes électromagnétiques qui propulsent les avions à un rythme plus soutenu. Cela permettra d'augmenter le nombre de décollages de 25%. Des technologies de pointe également avec des ascenseurs géants pour déplacer les munitions à bord. L'USS Gerald Ford produit 3 fois plus d'électricité que ses prédécesseurs, ce qui lui permet de transporter des armes de nouvelle génération, gourmandes en énergie, ce qu'on appelle les AED, armes laser ou électromagnétiques, des dispositifs qui n'utilisent pas de projectiles et qui renforceront globalement la puissance de combat de ce mastodonte, 335 mètres de long et pouvant peser jusqu'à 100 000 tonnes. Le commandement des forces navales américaines loue des capacités létales sans rivale. Alors certes, l'USS Gerald Ford est déployé avec 2 ans de retard, mais il permet aux États-Unis d'afficher leur avance technologique sur la Chine et la Russie. Actuellement, le navire n'est pas prêt au combat. Il part pour plusieurs semaines d'exercice dans l'Atlantique avec des pays de l'OTAN.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Un mot de football, Fanny, pour terminer avec la victoire 4-1 de l'OM hier soir face au Sporting Portugal.
J'ai l'impression que ça vous fait plaisir. Vous aviez l'air très enjoué. Premier but.
J'ai pas besoin d'être triste.
Premier but et première victoire des Marseillais en Ligue des Champions. On peut être content pour eux. Victoire qu'il faudra cependant confirmer en match retour mercredi prochain. Et puis ce soir, autre rencontre franco-portugaise, le PSG. PSG se déplace à Lisbonne face au Benfica. Match à haut risque pour les Parisiens. Aucun club français n'a jamais gagné à l'Estadio Dalouse. Coup d'envoi 21h à vivre évidemment en direct sur Europe 1. On verra si vous êtes aussi content demain.
Merci Fanny Marceau. 6h38, très bon réveil sur Europe 1. Comment éviter les coupures de gaz, d'électricité? C'est une responsabilité que le gouvernement fait peser en grande partie sur les entreprises. Alors comment préparent-elles leur plan de sobriété énergétique? Peuvent-elles réduire la voilure? Dans un instant, Nicolas de Varenne de l'Union des industries utilisatrices d'énergie. A tout de suite.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
La Caisse d'Épargne vous présente l'interview éco. Caisse d'Épargne, vous être utile.
Comment maintenir le cap de la sobriété énergétique et éviter les coupures de gaz et d'électricité cet hiver? Les entreprises sont sous pression des pouvoirs publics. Le gouvernement est bien conscient de leurs difficultés. Il vient de prolonger l'aide gaz et électricité aux entreprises énergivores. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est Nicolas de Warenne, président de l'UNIDEN, l'Union des industries utilisatrices d'énergie.
Bonjour Nicolas de Warenne.
Bonjour Alexandre Lemaire.
Vous représentez les industries grandes consommatrices d'énergie. Alors je vais n'en citer que quelques-unes. Renault, Stellantis, Total Energy... ArcelorMittal et même ADP, Aéroport de Paris, et la SNCF. Vous représentez donc près des trois quarts de la consommation d'énergie industrielle en France. C'est un poids considérable.
Dans l'industrie.
Dans l'industrie. Vous êtes évidemment donc très attendu à ce titre par les pouvoirs publics, hein, dans leurs appels répétés à la sobriété énergétique. Vous allez prendre toute votre part ?
Nous prendrons toute notre part, mais il y a un risque que le marché le fasse pour nous, malheureusement. Aujourd'hui, nos carnets de commandes se dégonflent un peu, pas encore de façon dramatique, heureusement, mais pour autant, ça entraîne une diminution d'ores et déjà de la consommation de gaz. Moins 30% en Allemagne, probablement moins 12 à moins 15% en France.
Est-ce que toutes les entreprises que vous représentez ont établi leur propre plan de sobriété énergétique, ainsi que le demande la Première ministre Elisabeth
Borne ? Oui, je le confirme, nous en parlerons demain avec la Première ministre et la ministre de l'Industrie. Nous avons appelé nos adhérents à le faire dès le mois de juillet, de préparer par anticipation, c'est notre métier que d'anticiper, ces plans de sobriété. L'objectif, moins 15%, qui peut le plus, peut le moins.
La célèbre verrerie Duralex va mettre sa production en pause carrément pendant 4 mois. Ce sera à partir de novembre à cause de la flambée des prix de l'énergie. Est-ce que d'autres entreprises, particulièrement chez vos adhérents, sont menacées aujourd'hui par une mise à l'arrêt pure et simple de leur activité, même temporaire ?
Je prends ça de nos adhérents, peut-être celle qui est la plus emblématique, l'aluminium. L'aluminium est un marché mondial. Aujourd'hui, 50% des capacités de production d'aluminium en Europe sont à l'arrêt. Non pas grâce au ciel, mais grâce aux dispositifs français. Aluminium Dunkerque, la plus grosse usine, 300 000 tonnes d'aluminium par an, 4 TWh de consommation, fonctionne. Mais elle a décidé, à partir de ces jours-ci, de ralentir sa production de 20% parce que les ventes marginales, elle les fait à perte. Donc plutôt que faire des ventes à perte, elle a décidé de ralentir. C'est le grand sujet et la grande menace qui menace toutes nos industries.
Donc cela signifie que dans les jours qui viennent, vous nous dites, une partie des salariés de cette branche industrielle de production d'aluminium vont se retrouver au chômage partiel.
Alors, il ne parle pas, je ne connais pas le détail, il ne parle pas de chômage partiel pour l'instant. Pour autant, ce qu'il faut prendre, c'est l'aspect économique et industriel qui m'intéresse. C'est le fait qu'ils sont obligés de ralentir parce que leurs ventes, soit à la grande exportation, soit sur le marché domestique, ne sont plus compétitives. Je crois que nous avons aujourd'hui un risque que j'appellerais d'effet falaise. C'est-à-dire, nous avons un risque majeur de ce que j'appellerais, pour filer la métaphore, le recul du trait de côte industriel. Vous avez la falaise, le pied de la falaise, c'est les grandes industries que nous sommes, et le pied du pied, c'est l'énergie. Et puis brutalement, un jour, 3 ou 4 ans après, sans crier gare, des centaines de milliers de tonnes s'effondrent. C'est ce risque auquel nous sommes exposés.
Oui, Nicolas Douarenne, est-ce que toutes les entreprises que vous représentez peuvent se permettre aujourd'hui de réduire la voilure, de réduire leur consommation d'énergie, ou est-ce qu'il y a un risque vital pour certaines ?
Il y a un risque vital, vous avez absolument raison. Il y a ce risque de délitement industriel que j'évoquais par cette métaphore de la falaise, qui sera à terme. C'est le très grand problème. Des pertes de ventes sur le marché domestique, marché européen, on peut les récupérer pour des raisons de proximité, etc. En revanche, des ventes à la grande exportation, là où nous sommes en concurrence avec les Américains, avec les Chinois, avec le Moyen-Orient, il y a des effets cliquets, il peut y avoir des effets irréversibles et des pertes de parts de marché qui soient irréversibles. C'est ça le très grand problème d'un nouveau décrochement industriel de la France à l'international.
Vous représentez, je le disais, des grands groupes automobiles, des géants de la métallurgie, des cimentiers. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus menacés que d'autres ? Vous citiez l'aluminium, mais est-ce qu'il y en a d'autres ?
Écoutez, malheureusement, je dirais que tous nos adhérents, tout le spectre de nos adhérents sont dans le radar. Ils sont aujourd'hui dans l'œil du cyclone de ce point de vue-là. Alors, nous appelons, parce qu'il faut parler des solutions, il ne faut pas se contenter de pleurnicher ou de faire un diagnostic un peu sombre. Les solutions, elles sont européennes. Des discussions majeures ont lieu en ce moment, déterminantes. Il faut arriver à s'attaquer aux coûts de production eux-mêmes, c'est-à-dire aux coûts de l'énergie dans la production.
Est-ce qu'il y a des usines qui réduisent ou qui arrêtent demain leur production, qui ne pourront pas rouvrir ?
Ça peut être le cas, cet effet irréversible que je l'évoquais. Mais je reviens sur les solutions, ça me paraît vraiment important d'en parler. Il est indispensable que nous ayons des solutions européennes. Il n'est pas question qu'un État, et je ne cite personne, fasse aujourd'hui cavalier seul en mettant des centaines de milliards sur la table. Alors, ça crée une distorsion.
Effectivement, Nicolas Douarenne, vous avez émis des propositions à l'Uniden, vous parlez de l'échelon européen pour la réforme du marché de l'énergie européen. C'est l'un des leviers justement.
C'est un des leviers parce qu'il faut agir sur les coûts de production, donc il faut agir sur la formation des prix sur le marché lui-même. On peut toujours faire de la redistribution des chèques énergie pour les entreprises, ça coûtera des centaines de milliards. De toute façon, on est parti malheureusement pour avoir des centaines de milliards de redistribution. Mais ça n'a pas d'effet sur les coûts de production, donc ça n'a pas d'effet sur notre attitude commerciale et sur le comportement sur le marché. Il faut agir sur les prix eux-mêmes. Et la façon la plus immédiate, la solution qui n'est peut-être pas parfaite, mais qui au moins fonctionne en Espagne et au Portugal, c'est d'avoir un prix de référence pour le gaz pour la seule production d'électricité. Et dans ce cas-là, le prix de marché de l'électricité baissera. qu'il est aujourd'hui pour l'hiver prochain à 600 euros, ce qui est absolument intenable. Le référent espagnol nous donne une indication autour de 150 à 180. C'est pas la panacée, c'est pas le Pérou, mais c'est déjà trois fois moins que le prix actuel.
Vu le poids industriel que vous représentez, vous allez jouer un rôle évidemment déterminant cet hiver pour nous éloigner ou pas du risque de coupure de gaz ou d'électricité, ce qu'on appelle pudiquement les délestages. Est-ce que vous pouvez rassurer les foyers à ce sujet?
Écoutez, si tout le monde s'y met, si tout le monde fait des économies, c'est absolument décisif. Ça jouera sur la consommation de gaz et sur la consommation d'électricité. Il y a des dispositifs d'alerte. J'invite chaque consommateur à prendre l'appli EcoWatt, EcoGaz et à avoir des gestes d'économie d'énergie. Ça n'est pas une contrainte si majeure que ça. Et c'est additionné sur des millions de consommateurs, 33 millions de foyers en France. Ça aura un véritable effet parce que nous devons continuer à produire. C'est une priorité.
Le gouvernement prolonge le fonds de soutien aux entreprises énergivores jusqu'à fin décembre. C'est bienvenu ou c'est cautère sur jambes de bois, Nicolas Douarnenez?
Non, pas du tout. C'est bienvenu, bien sûr, mais c'est une mesure ex post, c'est une mesure qui interviendra après. Je reviens au point fondamental, qui est d'agir aujourd'hui, et c'est ce qui se discute à Bruxelles en ce moment, sur les prix de marché eux-mêmes.
Merci Nicolas Douarnenez, président
beaucoup.
De l'UNIDEN, l'Union des industries utilisatrices d'énergie. Merci à vous.
C'était l'Interview Éco avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts en région, aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous être utile.
Europe 1, il est 6h48.
Europe Matin.
Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
Bonjour Anissé.
Et bonjour à tous.
C'est une bonne nouvelle ce matin. On sera bientôt alerté dès qu'une information sensible nous concernant est publiée sur Internet.
Oui, et surtout on va pouvoir la supprimer en un clic du moteur de recherche Google. Alors dans un premier temps, ça sera limité uniquement à son adresse postale, son numéro de téléphone ou son adresse email. S'ils apparaissent quelque part, et bien vous recevrez une notification. Vous pourrez ensuite consulter les pages incriminées. Et si vos informations n'ont rien à y faire, eh bien, il suffira de cliquer sur le bouton « Effacer » et les pages seront automatiquement retirées de l'index Google. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles seront supprimées d'Internet, mais au moins, elles n'apparaîtront plus dans la liste quand on fait une recherche. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire retirer quelque chose de Google,
c'est
la croix et la bannière. Il faut remplir un tas de formulaires, envoyer des tas de justificatifs et croiser les doigts pour que ce soit pris en compte. Eh bien, bientôt, tout sera automatique.
Alors bientôt, c'est pour quand exactement?
Alors ça commence à être déployé en ce moment, maintenant. Vous savez, Google le fait par vague, mais les alertes automatiques, elles, n'arriveront qu'en début d'année prochaine. Ça sera accessible dans l'application Google et il faudra aller cliquer sur sa photo, choisir « Recherche vous concernant ». Alors l'outil permettra aussi de demander le retrait d'informations comme son numéro de sécurité sociale, de son compte bancaire ou de ses identifiants de connexion. Mais dans ce cas, il n'y aura pas d'alerte automatique. Il se contentera de vous rediriger vers les bons formulaires. Donc c'est loin d'être parfait, mais on mesure quand même le chemin parcouru. Google a toujours été très réticent à supprimer quoi que ce soit de son index, sauf quand ça tombe évidemment explicitement sous le coup de la loi, du contenu pédophile par exemple. Il a toujours tout misé sur la liberté d'expression et sur la lutte contre la censure.
Oui, mais alors justement, Anissé, ça n'a pas changé tout ça avec le droit à l'oubli?
Eh bien, à peine. La procédure est toujours aussi complexe. Ne sont acceptées que des demandes pour du contenu qui est totalement obsolète, complètement faux ou purement diffamatoire. En plus, les informations restent visibles partout dans le monde, sauf en Europe. Mais heureusement, pour les informations personnel comme son mail, son adresse ou son numéro de téléphone, tout va enfin devenir plus simple. Il était temps.
Il était temps, c'est le moins qu'on puisse dire.
Merci Anissé Mbida.
Europe Matin.
6h50, les principaux titres de l'actualité, le journal permanent, Alban Le Prince.
Le gouvernement nous promet de gagner en pouvoir d'achat l'année prochaine, plus 0,9% selon les estimations de Bercy, qu'il explique par les effets du bouclier tarifaire et anticipe une accélération des hausses de salaire. Une femme et ses deux enfants retenus dans des camps en Syrie, rapatriés lundi en France, c'est ce qu'annonce le parquet national antiterroriste, qui précise que la femme a été immédiatement interpellée à son arrivée sur le territoire. En pleine polémique sur la Coupe du Monde de foot au Qatar cet hiver, l'Arabie Saoudite vient d'être désignée pays hôte des Jeux Asiatiques d'hiver 2029. 28 épreuves sur neige, 19 sur glace, dans une ville spécialement créée pour l'occasion, ville aussi grande que la Belgique.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe Matin.
Votre revue de presse internationale sur Europe 1. C'est d'abord ce matin un regard sur la Chine avec vous, Sébastien Le Belzig. Bonjour.
Bonjour.
Les unes de la presse chinoise ce mercredi.
Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, la semaine dorée, c'est comme cela que l'on appelle ces vacances de la fête nationale ici, et la presse scrute avec attention le nombre de voyageurs, et pour l'instant, comme le souligne le South China Morning Post, ce n'est pas la cohue hein, sur la route des vacances, et c'est même, précise le quotidien, les pires vacances depuis 3 ans en termes de fréquentation. Les trajets sont en chute de 40% par rapport à 2019, souligne le magazine Caixin. La faute aux restrictions de voyage liées au Covid, 70% des Chinois ne vont pas quitter leur ville pendant ses congés, écrit le journal Sixstone, par peur de se retrouver dans une zone avec des malades et donc de finir ses vacances en quarantaine dans un camp d'isolement. Mais certains s'offrent quand même quelques nuits d'hôtel de luxe, mais toujours dans leur ville sans avoir à se déplacer, d'où des tarifs qui ont doublé ici à Pékin. Pas de quoi compenser cependant cette semaine dorée décidément bien terne.
Partons pour le Liban avec notre correspondante Inès Gilles. Inès, de quoi parlent ce matin les journaux libanais ?
Eh bien, on parle ici des répercussions de la révolte iranienne sur le Liban et des conséquences sur la politique locale. Le puissant Hezbollah libanais, financé par l'Iran, a présenté son soutien au régime iranien. Selon le média Arab News, le leader du mouvement Hassan Nasrallah a qualifié la mort de Mahsa Amini de vague incident. Sur Al-Manar, le média du parti chiite, Hassan Nasrallah assure que la mort de la jeune iranienne est utilisée par la communauté internationale pour faire tomber le régime, de quoi nourrir les théories du complot. Mais tous au Liban ne partagent pas cet avis. Selon le quotidien L'Orient Le Jour, une manifestation a été organisée à Beyrouth contre la tyrannie et l'oppression, pas contre le hijab, ont scandé des dizaines de Libanaises. Fin septembre, un rassemblement avait déjà eu lieu en plein centre de la capitale libanaise.
Nous sommes enfin au Mexique avec vous, Gwendolina Duval, les gros titres de la presse mexicaine.
À la une ici, la polémique provoquée par une fuite massive de documents qui révèle la corruption de l'armée. Plus de 4 millions de mails ont été volés par un groupe de pirates informatiques latino-américains nommé Guacamaya, explique El País. Ces données transmises à la presse dévoilent des détails top secrets sur plusieurs opérations militaires, comme celle qui a conduit à l'arrestation du fils du célèbre chef de cartel El Chapo, Joaquin Guzman. Le journal Sin Embargo parle également d'une dizaine de cas d'agressions sexuelles commises par des militaires et qui auraient été étouffées en interne. Certaines de ces informations ont été confirmées par le président mexicain, rapporte Proceso, mais pas toutes. Certains documents montrent aussi à quel point l'influence de l'armée est grande au Mexique, jusque dans les plus hautes sphères politiques.
Merci Gwendolina Duval, merci à nos correspondants. 6h54, très bon réveil, très bon début de journée à l'écoute d'Europe 1. Dans un instant, la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.
Europe Matin.
Il est 6h56 et on vous souhaite de passer une excellente matinée à l'écoute d'Europe 1.
Et voici Dimitri Pavlenko qui vous rejoint. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre, bonjour Ambrine.
Bonjour.